Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode hors série de l'apéro des papas manchots. Je suis ravi de retrouver mes deux compères habituels, à savoir John Gecko. Bonjour John, comment vas-tu ?
Bonjour, chaudement. Je vais, pour bien commencer, je vais faire quand même une petite... c'est un épisode hors série, mais en série.
Il l'a préparé combien de temps là-bas.
Oh là là.
Ça fait un an et demi qu'elle est sur mon téléphone enregistrée dans les notes.
Roi du jeu de mots sort de ce corps. Et je suis accompagné par Morgan. Bonjour Morgan, comment vas-tu?
Bonjour, je vais bien. Je suis content de enregistrer un podcast. Ça faisait un petit moment qu'on en avait pas fait. Ça fait du bien.
Attends. Moi, je sais que tu en as fait d'autres. tu sais, du côté d'un studio vers Chambéry, là, je sais que monsieur le dilettant du podcast, qui ne fait pas que l'apéro des papas manchots.
Hein. Ah, mais l'autre, on ne voit pas, c'est pas
d'exclusivité.
Pareil.
Ouais. Que tu dis que vous ne voyez pas. Mais qui est assez éloigné et à diverser. Nous ne sommes pas trois aujourd'hui.
Mais bien sûr qu'on ne sommes pas trois, nous avons, qui dit épisode hors série, dit invité, et je pèse mes mots, exceptionnel. Cool. Alors, il prétend qu'il vient de Belgique. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense plus qu'il vient d'une espèce de cabine bleue, qui voyage quelque part entre l'espace et le temps. Et il nous fait plaisir d'être présent ce soir en notre compagnie. Bonjour Harry, comment vas-tu?
Bonjour à tous, et merci pour l'invitation.
Eh bien donc, comme vous devez vous douter, épisode hors série, on va faire plus à l'épisode crossover avec Harry qui fait partie de la cabine bleue. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais d'abord présenter ce qu'est l'apéro des papas manchots. Ça va être assez rapide puisque l'apéro des papas manchots, c'est peut-être un des podcasts francophones qui est le moins préparé de tous. C'est-à-dire que nous sommes quatre
co-animateurs.
J'ai oublié quand même le petit dernier qui est Fabrice, qui est quand même... le plus âgé en âge, mais le plus dernier arrivé dans l'équipe. Qu'est-ce que l'apéro des papas manchots? Donc tout d'abord, on est utilisateur fréquent de ce qu'on appelle des logiciels libres. Alors qu'est-ce qu'un logiciel libre? La notion principale, c'est que ce n'est pas forcément un logiciel systématiquement gratuit, mais c'est aussi un logiciel qui va pas prendre des données pour être utilisé par des tiers. Je pense notamment à tout ce qui est application sur téléphone mobile, ou bah quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, on va parler de logiciels qui sont certes la plupart du temps gratuits, mais qui n'ont pas ces notions de captage des données pour être utilisés par des tiers. Et on essaye aussi de prouver par l'utilisation de logiciels qu'il n'existe pas que Windows et macOS dans la vie, et qu'il n'existe pas que le pack Office pour faire du traitement de test et de la bureautique. Ça, c'est le concept de manière générale. Et bien sûr, comme c'est l'apéro, eh bien, entre deux, on boit un coup.
Alors, une petite vitelle.
De temps en temps. La cristalline aussi. Mais la plupart du temps, faut l'avouer, c'est de l'alcool.
C'est du houblon.
Force et houblon.
Voilà. Alors, pas forcément qu'il vient toujours de Belgique.
Non.
Oh, ça, c'est un peu dommage, quand même.
C'est un peu dommage.
C'est à l'image des logiciels libres de tout pays, Aristote. De tout pays.
C'est vrai.
Partout où le houblon pousse, et même là où il pousse pas.
Un jour, on vivra de la bière de Mars.
Eh oui.
De la planète Mars. Pas de la cuvée de Mars.
Oui. Et pas de l'éthanol.
Non plus.
Non mais oh.
Alors. Comme c'est un épisode crossover, on va demander à Harry de nous présenter le podcast de la cabine bleue, et ensuite de nous parler du sujet principal du podcast que je te laisserai présenter juste après.
Ouais, comme vous l'avez dit, donc moi je suis Harry, donc je suis le créateur et animateur principal de l'émission La Cabine Bleue. Donc La Cabine Bleue, c'est le premier et unique podcast belge 100% dédié à Doctor Who. Donc on s'est donné pour mission de commencer, bon là pour le moment, au retour de la série en 2005, et de parler de chaque épisode. Donc pour une émission, on parle d'un épisode ou d'un arc narratif, et puis on passe tout ça en revue avec mon équipe, et on dit un petit peu ce qu'on pense. On parle également un petit peu de culture populaire, parce qu'on se donne quand même, comment dire, une petite un petit quart d'heure, 30 minutes pour parler d'autre chose que de Doctor Who. Et donc voilà. Donc c'est un petit peu quelque chose qui nous anime et qui nous passionne. Et donc forcément, comme on a un podcast qui est entièrement basé sur Doctor Who, ben pour ceux qui sont pas fans ou qui veulent découvrir, je pense que c'est peut-être le bon moyen pour un petit peu se lancer là-dedans.
Oui, parce que c'est vrai qu'on doit quand même discuter. Le concept de la série est déjà particulier, et approcher la série, ouais, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Donc si tu peux essayer de résumer un petit peu de manière claire ce que le docteur et ce qui est la, ouais, série en général, et peut-être un peu le comment cette série est devenue mythique voire culte.
Mais en fait, donc Doctor Who, c'est une série, bon, déjà faut un petit peu la situer, c'est une série anglaise, et le fait qu'elle soit anglaise est vraiment très important, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'essence de la série. Ça se retrouve partout, que ce soit par les endroits que les personnages vont visiter, mais également par l'ambiance générale, la manière dont les personnages s'expriment et tout ça. Et donc en fait, c'est la plus vieille série de science-fiction qui existe. Elle a commencé en 1963, et depuis, bon, il y a eu des pauses, mais elle a plus ou moins été constante à partir de ce moment-là. Et donc ça parle de quoi ? Ça parle principalement du personnage du docteur, qui est un personnage qui n'est pas terrien mais qui vient de Gallifrey, et qui voyage dans l'espace et le temps pour vivre un peu des aventures. À la base, c'est une série qui avait été créée un petit peu pour intéresser la jeunesse à l'histoire, et le but était de faire voyager le docteur un peu dans le passé, et pour comme ça il voyait un petit peu des événements importants de l'histoire. Et puis petit à petit, c'est parti un petit peu partout, et c'est devenu une sorte de, comment dire, de mastodonte des séries, puisque c'est vraiment un incontournable de par tout ce que ça peut apporter. C'est-à-dire que un épisode de Doctor Who, ça peut être un épisode horrifique, ça peut être un épisode d'aventure, ça peut être un épisode typique science-fiction, mais ça peut être quelque chose de très sentimental. Ça peut être des épisodes concept, comme par exemple ça peut être des huis clos, ce genre de choses. Et donc la capacité qu'a cette série à se renouveler tout le temps et à apporter beaucoup de choses, c'est une chose qui nous, ouais, au sein de la cabine bleue, nous passionne. Et donc voilà.
Ouais, j'ai quelques questions. Enfin, j'ai pas du tout fait mes devoirs, donc je n'ai pas du tout écouté un seul épisode de la cabine bleue. Alors, c'est déjà un épisode, vous le timez à combien de temps?
En général, on est entre 5 minutes et 1h30.
Moins et donc, que le FPGA.
Private joke.
Mais on essaye de pas tirer trop en longueur et de pas non plus être trop court, parce que moi je suis un gros consommateur de podcasts, et les podcasts qui durent 5 minutes, je trouve ça un petit peu
dommage.
Voilà. Ouais, on n'a pas le temps de développer quoi que ce soit. Quoi.
Alors juste, du coup, si j'ai bien compris, vous faites un épisode après à la sortie de chaque épisode, donc genre toutes les semaines vous faites un épisode.
Non, en fait, ici, on a recommencé à la série. Donc la série avait recommencé. Il y avait eu une pause dans la série à partir de 89. Bon, il y avait eu un film et tout ça, mais bon, la série en elle-même, il y avait une pause pendant quelque temps. Elle est revenue en 2005, et nous, on a choisi le retour de la série en 2005 comme point de départ. Et donc, là, on ne suit pas vraiment de calendrier particulier. C'est quand on a le temps de se rencontrer, on se voit et on parle. On suit l'ordre des épisodes. Un petit peu, je sais pas si vous connaissez le podcast Pourquoi Buffy c'est bien, je crois que c'est ça.
Ouais.
Où ils se réunissent et ils parlent d'un épisode. Bon, eux, ils n'ont pas de... non, c'est Pourquoi Buffy c'est génial. Je me rectifie. Eux, ils n'ont pas d'ordre particulier. Dès qu'ils ont envie de parler d'un épisode, que ce soit un épisode de la première saison, la troisième, ils s'en foutent. Nous, on a décidé de suivre ça dans l'ordre parce qu'on trouve que c'est une série qui, même si chaque épisode a un petit peu son histoire principale, la représentation de la série et comment chaque élément va un peu s'imbriquer dans une sorte de mythologie, on trouve ça super important. Donc voilà.
D'accord.
Ok. Bah écoute, ce qui est surtout compliqué dans la série Doctor Who, et c'est pour ça que je voulais te poser la question, Harry. Mm-hmm. Pour toi, comment on peut aborder la série? Parce que pour moi, la série Doctor Who, c'est tu peux passer du très mauvais au très bon d'un épisode à l'autre. Et oui. Tu vois, si tu dirais par exemple à monsieur et, et madame Michu, tu dirais voilà, je vous conseille de regarder la série à partir de tel moment pour commencer à vous dire ok, vous allez accrocher ou pas.
C'est vrai que l'approche de la série, elle est vraiment très compliquée, parce que si tu veux commencer en 2005, ce que nous, dans la cabine bleue, on conseille, ben, tout de suite, t'es un peu confronté à quelque chose de visuel, qui peut un peu te rebuter. C'est-à-dire que, en 2005, la série, ouais, c'est très cheap, c'est très kitsch, faut savoir que plus ou moins à la même époque, tu avais des séries qui avaient une imagerie incroyable, et là on se retrouve avec un truc qui aurait pu être produit à la fin des années 90, quoi. C'était vraiment, ils avaient pas de budget, ils avaient pas de moyens. Du coup, au début, ça fait un peu peur. Nous, ce qu'on conseille, bon, c'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est de se prendre genre les 3-4 premiers épisodes et de se les taper. Donc les 3-4 premiers du retour de la série en 2005 avec le 9e Docteur. Et en fait, au bout d'un moment, sans t'en rendre compte, tu tombes dans le délire, en fait. Et tu pars avec les personnages, et le côté kitsch, ça fait partie de ce que tu aimes dans la série. Le côté manque de moyens. Après, c'est vrai, tu l'as dit, la série a des hauts et des bas. Et là, je trouve que depuis un moment, on est dans un bas, du point de vue de la qualité.
Ah ouais?
Mais moi, personnellement, depuis la saison 7, j'y trouve moins mon bonheur, je vais dire.
Ouais. Peter Capaldi ne t'a pas séduit?
À certains moments, si, je trouve que c'est peut-être probablement l'un des meilleurs acteurs, l'un des meilleurs acteurs jouant le docteur qu'on ait eu.
Alors, excusez-moi juste de vous couper, messieurs, avant de revenir sur Peter Capaldi et Matt Smith, on a oublié de donner une idée principale pourquoi la série dure depuis plus de 50 ans. C'est que les scénaristes ont trouvé une astuce,
oui.
C'est que le docteur est capable de se régénérer.
Ouais, tout à fait. En fait,
je te laisse continuer sur ouais. Harry.
En fait, avec le premier docteur, donc William Hartnell, quand il a commencé à jouer le docteur, il était déjà assez vieux. Et quand il était venu pour lui le temps de quitter la série, ben eux, ils avaient encore des choses à dire, ils avaient encore des choses à explorer, et du coup, ils ont trouvé ce système de régénération. C'est que à la fin de sa vie, le docteur ne décède pas, ben il se régénère en une autre personne, mais qui a la mémoire du docteur précédent. C'est d'ailleurs pour ça que, en tant que docteur, puisque le docteur n'a pas de nom, il a juste un nom qui est le docteur, c'est une sorte de titre, ben on les identifie par leurs chiffres, en fait, par ordre d'apparition. Ce qui fait que là, actuellement, et encore il y a débat, hein, parce que tout le monde veut savoir si John Hurt, est-ce qu'on le considère comme un docteur, ou est-ce qu'on le compte, bon, voilà. Mais actuellement, il est plus ou moins convenu que le 12e docteur, et donc il y a eu 12 incarnations, il y en a eu un peu plus, mais comme j'ai dit, c'est un petit peu compliqué d'en parler. Mais voilà, pour le moment, il y en a 12, on va dire. Moi, je considère qu'il y en a un peu plus, mais voilà. Et donc, ils ont trouvé ce moyen qui fait que, ben, depuis 63, ils peuvent totalement se renouveler. Et l'annonce d'un nouveau docteur, à chaque fois, est un gros événement. Vraiment un très gros événement.
Et d'ailleurs, il y a des polémiques autour des docteurs, puisqu'il y en a certains qui en comptent 13 et d'autres 12. Puisqu'il y en a qui accusent un docteur qui n'est apparu que dans un épisode qui s'appelle le War Doctor. Mais
ouais.
C'est le docteur qui n'était pas encore le docteur parce qu'il ne se faisait pas encore appeler le docteur.
C'est ça, il a décidé de, pendant cette période-là, de ne pas porter ce nom. On va pas spoiler les raisons, mais c'est justifié scénaristiquement.
Voilà, donc.
Donc en fait, dans cette série, ce qui est, je connais un petit peu, j'ai vu, ce qui est pas mal, c'est que ce qui à la base était un tour de passe-passe scénaristique pour renouveler l'acteur,
ouais.
Est devenu en fait l'ADN de la série, quoi.
Oui, c'est
comme tu dis, chaque
concept.
Changement de docteur, c'est comme une passation de pouvoir de pape, quoi.
Ben en fait, c'est exactement ça.
Sois gentil avec le docteur. Excuse-moi.
ne mêlons pas la religion à tout ça. Non, mais c'est vrai qu'en fait, en Angleterre, faut voir ce que c'est. Je conseille à chacun qui est un petit peu intéressé par Doctor Who de regarder la vidéo. Je crois que c'est donc c'était quand David Tennant quitte le rôle. Donc il y avait une distribution de prix quelconque à laquelle il pouvait pas être, mais il était en direct en duplex. Et là, il a annoncé qu'il quittait la série à la fin de la prochaine saison. Il suffit d'écouter la réaction du public. C'est un truc national, c'est tellement important. Il y a même en Angleterre, la reine d'Angleterre, dans une interview, a déclaré être une Whovian, donc être fan de Doctor Who. Donc ça va jusque là.
Les fans de Doctor Who appellent ça des Whovians.
Oui, des Whovians. C'est comme ça que, enfin,
en comme Angleterre,
ça
que... du moins.
Ouais, en tout cas en Angleterre c'est comme ça qu'ils les appellent. Bon, moi, voilà, c'est... chaque truc a son petit nom. Moi, j'y prête pas spécialement attention, quoi.
Et juste, enfin, t'as oublié juste de nous dire un truc, c'est pour oui. Pour ceux qui pourraient être intéressés, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ah oui, nous.
Où est-ce qu'on peut vous écouter?
Et nous, on est principalement diffusé sur la plateforme PodCloud. Donc dans le système de recherche de PodCloud, vous tapez la cabine bleue. Sinon, on a également une page Facebook. Vous tapez la cabine bleue et vous voyez un logo du TARDIS, parce que on en a pas parlé, mais le TARDIS, donc le vaisseau du docteur, est extrêmement important, parce que comment expliquer ça? En fait, c'est une cabine bleue qui ressemble à une cabine téléphonique. En fait, en Angleterre, dans les années 60, il y avait des cabines rouges qui servaient à tout le monde pour passer des coups de téléphone. Et puis, il y avait des cabines bleues qui étaient les cabines de police dans lesquelles on mettait, dans les policiers pouvaient mettre les malfrats qui venaient d'arrêter là-dedans. Et ça servait de prison en attendant qu'un véhicule puisse venir le chercher. Et donc, en fait, lors de la production du tout début de la série, le but était que le TARDIS puisse se changer un petit peu en n'importe quoi, je sais pas moi, ben voilà, en cabine téléphonique, mais ça pouvait être en statue, en charrette, enfin n'importe quoi, pour pouvoir faire partie un petit peu du background dans lequel il se trouve et comme ça ne pas se faire repérer. Le seul problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que niveau production, changer à chaque épisode, ça coûtait un peu beaucoup d'argent. Et donc, ils ont décidé de faire en sorte que le TARDIS a son premier changement, il a eu une panne et du coup, il reste bloqué là-dedans. Et donc voilà, maintenant c'est la cabine bleue, d'où le titre de notre podcast, parce que ça, vraiment, ça, c'est très important. C'est un peu ridicule en effet, mais ça fait partie du côté.
C'est kitsch, c'est l'idée, c'est Doctor Who en un mot, c'est kitsch.
Ouais.
Mais c'est du kitsch, c'est du bon kitsch.
C'est kitschissimement culte.
Bah pour la petite blague, c'est ça qui m'a fait suivre Doctor Who, moi, c'est le Sabine de police.
Mais
et c'est vraiment ça.
Ouais. En fait, le côté kitsch, on en a beaucoup parlé. Nous dans notre émission La Cabine Bleue, c'est que il y a eu, donc à partir de la saison 5, quand Matt Smith est arrivé, on a perdu un peu ce côté kitsch, et donc il y a énormément de fans qui ont commencé à chialer en disant on perd l'identité du show, qu'est-ce qui se passe, et c'est vrai que ça changeait beaucoup, et bon, finalement on s'est rendu compte que le show n'était pas que un enrobage kitsch, mais ça fait vraiment beaucoup. Nous, enfin moi personnellement, c'est ça qui m'a fait craquer. Au début, tu rigoles parce que c'est un peu ridicule, et puis petit à petit, tu tombes dans le délire et t'as envie de voir des monstres en caoutchouc.
Et piqué.
Ah ouais, mais c'est vraiment pour ceux qui aiment vraiment, qui sont vraiment passionnés par les séries, c'est le genre de série qui te passionne énormément. À partir du moment où tu croises quelqu'un qui est fan de Doctor Who, c'est bon, t'es parti, tu vas parler pendant des heures, c'est certain.
Le truc Doctor Who, moi la première saison, j'ai pas accroché plus que ça. Ouais. Moi, j'avais pas trop aimé le premier Docteur. Télé Cyberman et tout, j'avais pas trop. Même maintenant, j'aime pas trop. Dans Cyberman, c'est des monstres dans l'univers du Docteur.
Ouais.
Mais après, il y a eu des épisodes que j'ai trouvé énormément bien, que j'ai vraiment kiffé. Donc tu vois, ça dépend. C'est une série qui peut se renouveler parce que chaque épisode est différent. Ouais. Et après, j'étais déçu de passer d'un super épisode à un truc qui reprenait pas la continuité du truc, enfin du précédent. Genre il rencontrait, je sais pas, un monstre des démons à qui il parlait de, enfin un monstre des démons à qui il parlait de, je sais plus quoi, de métaphysique, je sais pas quoi. Après tu te fais prendre dans l'univers parce que à force de regarder, il y a des choses qui reviennent, des Daleks qui reviennent plusieurs fois, des Cybermen qui reviennent et du coup ça. Mais va, c'est pas non plus tout tombé à l'oubli.
Je pense que ça fait vraiment partie des forces de la série, c'est que en fait il y a tellement de possibilités que en fait, ils ont contacté énormément d'auteurs différents. Il faut savoir que sur une saison de Doctor Who, généralement, tu peux avoir jusqu'à presque une dizaine d'auteurs différents. Et donc, forcément, chacun va apporter un peu son histoire. Et je pense que les moments les plus intéressants de Doctor Who, c'est les histoires un petit peu contenues d'elles-mêmes, quoi. Tout le monde dit Blink. Bah oui, c'est super Blink parce que c'est un épisode. Si t'as jamais vu Doctor Who, tu peux regarder celui-là sans rien connaître. T'es parti.
C'est une belle approche.
Ouais, c'est un bon moyen. En plus, il parle un petit peu du voyage dans le temps et des paradoxes, ce genre de choses. Du coup, ça, parce que qui dit oui, ça joue beaucoup avec le voyage dans le temps, forcément. Mais il y a et donc ça réussit plus ou moins. Par moment, ça réussit un peu moins. Mais c'est vrai que la qualité, du point de vue de la qualité des épisodes, c'est vraiment en dents de scie. Et parfois tu peux avoir le meilleur épisode que t'aies jamais vu de ta vie, tout confondu, hein, que ce soit même en dehors de Doctor Who, il y a certains épisodes qui sont clairement des vrais claques, et puis l'épisode d'après tu peux avoir le pire épisode que t'aies jamais vu de ta vie de n'importe quelle série.
Et c'est ça qui va te donner envie de continuer à regarder, parce que tu sais que tu vas passer du pire au meilleur.
C'est-à-dire que dans une saison de Doctor Who, il n'y a jamais l'entièreté de la saison qui est mauvaise. Il y a toujours quelque chose de bien, et parfois même au sein d'un même épisode, tu peux avoir des moments, des pics de vraiment de génie qui arrivent comme ça. C'est assez passionnant, ça peut être démoralisant, parce que quand t'es fan de la série et que t'as un petit peu du mal à dire, à défendre ta série face aux autres. Mais bon.
Et question, dans la cabine bleue, est-ce que vous parlez de Jack machin là?
Jack Harkness. Oui, on en a parlé.
Et ils ont fait un spin-off là.
Oui, Torchwood. Bon, on en a parlé récemment parce qu'on a critiqué le premier épisode de sa première apparition. Et on va aborder petit à petit les spin-offs de Doctor Who également. On va aussi passer sur la série classique. Donc tout ça, on va vraiment l'aborder en long et en large. Mais quand on parle d'un épisode, on essaie vraiment de tout passer en revue, quoi. Donc forcément, tous les personnages marquants, tels que Jack Harkness et son travail à Torchwood, on l'aborde et on en parle énormément. Nous, c'est un de nos personnages favoris, donc forcément, on en parle.
D'accord. Bon, on va peut-être pas... je pense qu'on a fait déjà une belle approche de la série, parce que ça fait quand même à peu près 20 minutes qu'on en parle. Et comme tu disais, on pourrait continuer pendant des heures.
Ouais.
Et c'est vrai que là, on est déjà bien lancé. Et j'ai encore plein de questions, mais je pense que j'ai pas envie, parce que on a un sujet quand même très principal, nous, au niveau de l'apéro des papas manchots.
Ouais.
C'est le thème principal, c'est quand même l'apéro.
Ah, oui, bien sûr.
Mais juste avant, DK, excuse-moi, juste en remettre une petite couche.
Oui.
La magie de Doctor Who, donc, c'est du coup sa diversité d'épisodes qui fait que même entre, on va dire, fans, ou du moins entre personnes qui suivent Doctor Who, on va pas être d'accord qu'il peut mettre, je sais pas moi, on va dire, allez, 5 personnes qui suivent Doctor Who.
Oui.
Tu leur demandes, je sais par exemple, moi un épisode que j'ai bien aimé, c'est celui-là sur la fin de l'univers. On va pas trop spoiler.
Oui.
J'ai adoré. Ah, j'ai parlé avec d'autres amis. Ah, je sais pas. C'est quand c'est.
Mais, on va pas commencer à partir là-dessus, mais oui, je vois.
Voilà. On était plusieurs à en parler. Eh ben, on avait chacun notre avis. D'autres n'ont, beaucoup n'ont pas aimé. Et deux personnes qui étaient avec moi ont adoré aussi, mais pas pour les mêmes raisons.
Mais c'est ça en fait, même au sein de notre émission, donc j'ai mes collaborateurs, hein, de leur série je les ai pas cités, mais je vais vite fait les citer. Donc il y a Tonton Sonde, il y a Al et JT, et on a vraiment des avis totalement différents. Déjà sur, on l'a pas dit, mais le docteur est accompagné par, généralement c'est une femme, sauf Matt Smith, lui, était accompagné par deux personnes, et une femme, et le petit ami de cette femme. Et rien que la discussion sur quel est le meilleur compagnon, déjà là, tu pars des heures. En plus, après, si tu veux partir et juste poser la question, le meilleur docteur, t'es parti pour des heures encore. Après, qu'ils sont pas mis d'accord, et de toute façon, ils se mettront jamais d'accord.
Voilà.
Non, parce que le meilleur compagnon, c'est Cafetière.
Ok.
Voilà. Il n'embête personne, tu le vois dans un épisode, et c'est pas un humain.
Oui, il y a tellement de possibilités, mais c'est tellement fou, quoi.
En tout cas, c'est une série qui est cultissime, donc après, n'hésitez pas à écouter La Cabine Bleue pour avoir plus d'idées de la série. Et bon, en tout cas, bon courage, parce que je crois que la nouvelle série, je crois qu'on est à 120 épisodes maintenant. Donc,
ouais, en tout cas, de la nouvelle série, ouais. Et après, bon, il y a toute la série classique qui est encore plus longue, en fait.
653 épisodes de l'ancienne série.
Et en plus, il y a tous les spin-offs. Sachant qu'il y a, il y a les films, il y a les épisodes perdus, donc forcément il y a des épisodes qu'on ne pourra pas.
Plus d'épisodes de variété de bière en Belgique quand même. Ça va être dur pour les enregistrements.
C'est vrai qu'on va avoir un peu de mal à se renouveler du point de vue des boissons. C'est vrai que si on veut vraiment tout aborder, on est parti pour des dizaines d'années, quoi.
Ah oui.
Surtout au rythme auquel on enregistre.
Bon, en tout cas, si t'as besoin de renfort, tu aurais encore quelques fans à inclure dans l'équipe si tu le souhaites, hein.
Ah,
mais
c'est
on n'est pas du bon côté de la frontière. Alors, est-ce qu'il y a une discrimination frontalière, ça, on ne sait pas.
Oh, j'irais pas à ce point-là, mais il y a toujours une petite rivalité.
Même si on boit de la tripe carmélite.
Oui, oui, non, faut être sur le territoire, hein, tu sais, c'est comme ça que ça se passe.
T'as le droit de boire de la pils de Lidl, mais pas de la bière belge pendant leur podcast. Ça se mérite, tu vois.
Exactement.
Bon, bah, sur cette transition apéro, qu'est-ce que vous buvez, messieurs? Qui veut présenter son apéro en premier?
Il faut que j'aille chercher ma bière. Alors, je vous laisse vous présenter le vôtre.
Alors, bah, je vais commencer, les cas. Comme ça, je vais te laisser humecter un petit peu. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'on en a parlé et que Morgan m'a induit en erreur.
Oui.
Voilà, mon chien est d'accord aussi. En me disant que on parlait de Guinness.
Oui.
Je disais que c'était une bière qui m'attirait.
Oui.
Et que j'avais jamais goûté. Il m'a dit, ah, c'est bizarre et tout, mais la première fois qu'on y goûte, c'est bizarre, mais après, je ne buvais que ça. C'est ce que j'ai pris. Et je me dis que finalement, j'aurais préféré de la cristalline.
Non, les bières noires sont un peu spéciales, hein. C'est assez.
Mais je regrette ma triple carmélite que j'ai bu sans faire d'enregistrement où j'aurais pu faire des éloges.
Oui.
Qui est une excellente bière.
Oui, qui a été recommandée par quelqu'un de qualité.
Oui, tout à fait. Par deux personnes même.
Non, il y a un premier qui a dit que la triple carmélite est bonne. Il y en a un autre qui a dit, tiens, je vais goûter. Et le troisième s'est mis à goûter la triple carmélite.
Ouais, voilà. C'est un peu un classique.
C'est un peu un classique, mais ça reste une référence.
Et je comprends pourquoi.
Ouais. Ah ouais, surtout en pression.
Et en plus, quand on les achète en canette, ouais, elles sont consignées.
C'est vrai.
Ah, ça je savais pas.
C'est marqué en tout petit, derrière, 10 centimes.
Ouais, mais je savais ça, je sais qu'en Belgique, ça se fait très souvent, parce que, je suis frontalier, j'ai la frontière qui est à 5 km, et je connais pas mal de gens qui achètent leurs canettes en Belgique et qui les ramènent,
oui,
pour échanger, mais je savais pas qu'en France, c'était comme ça aussi.
Dont toi ?
Dont moi.
On ramène les fûts, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps.
Ah, non,
nous ne sommes pas suisses, monsieur, on a le temps.
Non, mais j'avais vu un truc à propos de ça. En Chimay, je crois qu'ils recyclent 280 000 canettes par jour.
Waouh.
Ah ouais,
ah quand même.
C'est de la grande soif.
Ça déconne zéro. Mais en même temps, c'est... Ouais. En même temps,
Chimay,
c'est un peu... Ouais, c'est un sport national.
Chimay, c'est une bonne bière aussi. Hein.
Mm-hmm.
Ça, c'est une bonne bière, mais je pensais pas. 280 000 par jour. Et il disait plus des deux tiers, c'est de leur canette. Parce qu'en plus, la Chimay, elle a un format de canette un peu particulier. Donc, il y a une machine qui les calibre assez facilement pour récupérer. Et en gros, il y a un seul tiers des canettes qu'ils récupèrent qui ne sont pas des Chimay. Donc, c'est le sport national belge, le recyclage de canettes. Il y a Eden Hazard. Et après,
alors voilà, on a trois choses nationales qui sont des trésors nationaux. On a la cabine bleue et des nazars. Et après, on peut mettre toutes les bières ensemble, ça va quoi. Pas de jaloux comme ça.
Ouais, c'est
mais bon, puis les goûter, il en faut plus d'un séjour. Ou à moins d'être frontalier comme certains, de pouvoir aller chercher les flux à la source.
Eh oui. Bon, en tout cas, John, donc un peu déçu de ta...
Oui, c'est bon.
De ta Guinness.
Mais, voilà. C'est...
Je sais plus si elle est forte, ta Guinness.
Après, John.
Oui.
J'étais en Irlande. Et...
En pression, ouais. Tu l'as pris.
Ouais, okay. J'ai la Guinness en pression, mais ça, c'est pas le problème. Mais genre, je crois que la Guinness qui vend en dehors de l'Irlande, elle est plus légère que la Guinness d'Irlande.
Ah, je sais pas. Mais c'est vraiment au niveau de, on va dire, palais. Ça m'a surpris, en fait. Comme je t'ai dit avant qu'on enregistre, ça fait un peu de l'eau.
Ça me fait penser à un truc, je me permets un petit peu de,
oui, oui,
de prendre le micro. Mais pour ceux qui aiment bien tout ce qui est autour de la bière, ou pas forcément en boire, mais savoir tout ce qu'il y a autour des systèmes de publicité et tout ça, il y a une très bonne chaîne YouTube qui parle de ça.
Une bière et plomb.
Ben, c'est une bière et j'y vais, je crois.
Oui.
Ouais. Qui est... Il nous l'a conseillé l'épisode précédent.
Ah, mais j'ai pas écouté l'épisode précédent.
Jeanne Déco.
Ben voilà, c'est excellent. Du coup, je remets une couche. Je la reconseille aussi. C'est vraiment intéressant. Voilà. Le mec, il connaît, il travaille très bien son sujet.
Et c'est un Belge qui nous le dit.
Oui, en plus.
En plus.
Donc, si c'est recommandé par un Belge, systématiquement, c'est que c'est bon.
En plus, c'est une petite pépite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Du coup, ça fait un petit peu encore confidentiel. Oui. Partagez-le.
Et puis c'est bien dommage quand on voit la qualité de et puis la recherche surtout la qualité des vidéos et le côté pédagogique qu'il y a derrière.
Ah, la première vidéo était très chiante, mais c'est grave amélioré sur le rythme.
C'était la première et puis il n'y avait pas forcément.
Maintenant je trouve que la qualité du travail qu'il fait est vraiment exemplaire.
Oui.
Il connaît extrêmement bien son sujet. Il fait des formats courts, donc c'est le genre des vidéos de 5-6 minutes, quelque chose comme ça. Et il t'a passé tout le sujet vraiment au peigne fin, et puis voilà, c'est extrêmement divers.
Et nous a donné envie de goûter le houblon, car faut préciser qu'à dans chaque épisode, on le voit manger un houblon.
Ah, c'est ça qui à chaque fois il mange une petite pâte. Je pensais que c'était des cacahuètes, moi.
Ah bon, de la cacahuète verte? T'es sûr que tu pensais pas que c'était autre chose?
Non, ou une pistache.
Oui,
une pistache. Ouais.
Ah bah oui, comme on sert au bar, par exemple.
Excusez-moi, j'ai oublié le décap, je reviens.
Harry, est-ce que t'as une boisson à nous présenter?
Alors, c'est un peu particulier, mais quand vous m'avez parlé d'apéro, j'ai pensé à quelque chose qui est dans mon congèle, en plus il fait très chaud.
Ouais.
C'est quelque chose que quelqu'un de ma famille m'a ramené. Donc c'est une glace sorbet à la crique.
Oh.
Et donc ça s'appelle Franklin, et c'est vachement bon.
Ce n'est pas une tortue.
Non, ce n'est pas une tortue. Bah, quand t'auras terminé le pot, peut-être que tu marcheras aussi rapidement, mais bon. Et donc, c'est fait en Belgique. On m'a ramené ça, et c'est vraiment très très bon. Alors, tu sens pas du tout t'as vraiment juste l'impression de manger un sorbet à la cerise, mais c'est pas vraiment de la cerise, c'est à la crique, quoi.
Ouais, parce que faut rappeler que la crique, c'est une bière à la cerise.
Oui, qui est... Bon, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de mettre ce morceau de glace dans ma bouche, parce que pour parler, c'est pas évident. c'est la cerise, et plus généralement, la crique, c'est des boissons un peu d'adolescents, quoi, parce que c'est très alcoolisé, ça se boit facilement parce que tu ressens pas vraiment l'alcool. Et donc voilà, quoi. Généralement, on dit que c'est des boissons de femmes, donc.
C'est vrai.
Je suis assez d'accord.
Mais bon, attention, parce qu'il y a des femmes qui boivent comme des hommes, donc maintenant...
Non, mais... Oui, pas du tout sexisme dans ce que j'ai dit.
Oui, oui.
Oh, non.
Parce que moi, je crois que ça doit être ma préférée, donc...
La crique?
Ben ouais, mais c'est parce que c'est très fruité. Et du coup, moi, je suis encore un enfant, j'aime les trucs fruités. Et
si tu veux... J'aime la lèvre-vie aussi.
T'en bois mon cul, t'es dégoûté après.
Donc cette glace, je vous la conseille. En plus maintenant qu'il fait, je sais pas près de chez vous, mais j'imagine qu'il fait très chaud.
Oui.
Du coup, ça fait vraiment du bien parce que là, c'est.
Ah. Même dans le nord de la France, il fait chaud.
Mais oui. Moi, je suis au nord du nord de la France et je peux dire qu'on souffre.
Non, et tu es dans le sud par rapport à moi.
Oui.
T'es plus dans le sud que moi.
C'est vrai.
Moi, je suis au milieu des terres, toi. T'es un petit
mais
petit
messieurs, bizarre. Tous les chemins mènent au Rome. À Rome.
Donc, du coup, ça fait vraiment du bien.
Même en Île-de-France, il fait chaud, tu vois.
Oh oui. Et demain, 37 degrés. Le jour de la fête de la musique. Ouais.
Bah, comme ça, on va pouvoir rire tard le soir.
Ouais.
Ah bah.
Et alors, Morgane, ton apéro?
Bah, alors moi, c'est déjà une bière que j'ai... Enfin, pas tout à fait la même, mais déjà une marque de bière que j'ai présentée à ma première apparition. Mais je voulais montrer aux Belges qu'il n'y a pas que les Belges qui savent faire de la bière.
Attention, sujet délicat.
Tu vas faire quoi?
Alors,
tu nous lances une docteur vous, là.
C'est un sujet très long.
Je lis l'étiquette, c'est captage d'altitude le Tovex. Je vois pas pourquoi ils disent ça. Écoutez les étiquettes. Alors c'est chaud, j'ai pas beaucoup de lumière. Je suis brassé à l'eau des glaciers du Mont Blanc. La source, l'Enchapeleuse, 2000 mètres d'altitude, au flanc même du Mont Blanc, est mon lieu de naissance. Cette eau des glaces, très pure et peu minéralisée, transcende depuis plus d'un siècle tout le savoir-faire des hommes de la brasserie du Mont Blanc. Ouh là là. La rousse, la rousse du Mont Blanc.
Pour la Barry White, tu sais, pour essayer de faire un peu le...
La rousse du Mont Blanc est une bière ambrée spéciale de fermentation haute, brassée avec des malts originaux au touraillage. C'est quoi ça?
La torréfaction, non? Ça?
Au touraillage, je connais pas du tout. Houblon fin sélectionné pour leur aromatique. Bon, enfin bref, ça pour dire, ce que je voulais dire, c'est une grande étiquette, c'est élu meilleure bière de l'année, meilleure bière du monde, pardon.
En
vous? Et c'est une bière de... Hein?
Ils vont se calmer, dis donc.
Ah, il y a le logo, il y a le logo. On peut rien dire, il y a le logo.
Oh, ben ça va, moi je vais mettre meilleur podcast d'Europe sur mon logo et ça va aller vite.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, cette bière est très bonne, faut pas le mentir, c'est donc une bière de chez nous. Mmh. Elle est très chère aussi, pour une bière. Mais, en fait, c'est surtout une bière grandes étiquettes pour moi qui attrape touristes. Elle est très bonne, ça n'empêche pas, mais elle attrape touristes. Quand tu vois que t'as des bières belges qui sont vraiment aussi très bonnes et pas aussi chères, quoi. Mais voilà, je voulais montrer qu'il n'y a pas que les Belges qui savent faire de la bonne bière avec l'eau d'altitude.
Ah non, mais très sincèrement, c'est-à-dire qu'il y a des bières un peu partout sur le globe et chacun a un peu sa spécialité. Bon, ben, c'est sûr que si tu vas parler à un Belge et que tu vas lui dire que la meilleure bière c'est la bière allemande ou la bière anglaise, il va un peu te taper sur le nez, mais bon.
Ouais. Et même en dehors du globe.
Pour bientôt, ça.
Ça, c'est quand il y aura un programme spatial belge. Ils vont aller planter du houblon dans l'espace.
Je serais même pas surpris. Sans déconner, je serais pas du tout surpris. Si on avait un programme spatial, je pense que c'est la première chose qu'on ferait.
Vous avez tous dit vos bières?
Non.
Non, il en manque un.
Il veut présenter son
film. Neutralité, messieurs. Moi, je vais ni en Belgique, ni en Savoie, ni dans le nord de la France, ni en Île-de-France. Moi, je vais en Italie. Oh. Comme ça, moi.
Ah, je connais aucune bière italienne.
C'est normal, c'est de la San Pellegrino.
Est-ce que vous connaissez la Pérole?
Oui.
Voilà. J'ai testé le cocktail La Pérole Pritz. Alors, c'est pas compliqué, c'est 3 drosses de Prosecco ou de vin crémant d'Alsace, vin blanc mousseux, 2 doses d'apérol, un trait de soda et une tranche de... Une petite
de cochon. De
voilà. Du surimi.
Du surimi, voilà. Du chorizo. Non. Et ça passe tout seul, surtout en ce moment, avec les grandes chaleurs. Tu mets des glaçons dedans dans un grand verre et ça passe tout seul. C'est très bon, mais c'est très prêtre. Donc, un, ça va. Deux, ça passe. Le troisième, t'as du mal à te lever et t'as une grosse envie de pisser.
Et en ces forts temps de chaleur...
Ouais.
Mieux vaut une à deux personnes, une pour deux. pour trois.
Mais, comme nous avions un invité, belge, j'ai quand même dit, il n'y a pas que des bonnes bières en Belgique. Et là, j'ai sorti.
Une Carapilus.
Une Stella Artois.
Oh non, pas ça.
La devise de la Stella Artois, t'en bois une, t'en pisses trois. Voilà.
Sinon,
c'est
aussi,
vrai. Attends, c'est vraiment la devise de la bière?
Non. Mais c'est,
non, mais c'est ce qui se dit.
Tu connais ça, la Stella Artois, t'en bois une, t'en pisses trois.
Oh oui. Mais sinon aussi, ce qu'il y a de beau, c'est la Carapilus. Enfin, je sais pas si vous en avez en France.
Non, même de la Jupiler, on n'a pas. Hein.
Ah oui, vous avez même pas ça.
Jupiler, si ça arrive, mais
pas aussi loin dans les montagnes. Hein. Ça existe pas la Jupiler chez nous.
Ah mais la Jupiler, c'est dégueulasse.
En fait, ça dépend des.
C'est le filtre.
Des magasins et des comment ça s'appelle. Des arrivages par saison.
Okay. Parce que la Carapilus, en fait, c'est assez magique. Ouais. C'est la. Alors, je vais peut-être un peu parler belge, mais après, je vais expliquer ce que j'aurais dit. C'est un peu la bière des barakis, en fait. Donc, c'est quoi un baraki?
Oui. C'est le bar de qui, tu veux dire?
Ah non, pas du tout. Un bar à qui, en fait, c'est un peu comme un beau, quoi. C'est gros dégueulasse, tu vois. Mm. En fait, pourquoi c'est de leur bière un peu attitrée? C'est parce qu'elle coûte genre, en fait, la canette coûte genre moins de 30 centimes, un truc comme ça.
D'euros?
Enfin, à l'époque, c'était le cas. Maintenant, je sais pas si c'est encore le cas, parce que j'en ai pas vu depuis. Non, les grands formats étaient moins d'un euro, en tout cas, ça c'est certain. Et en fait, pour, tu sais, tout ce qui était SDF et tout ça, quand ils avaient un peu froid, au lieu d'acheter de l'eau, ils venaient acheter de la carapilus, parce que ça coûtait beaucoup moins cher que de l'eau. Et au moins, quand ils étaient bourrés, ils étaient un peu réchauffés, quoi.
Ah ouais. Mais
c'est triste. Hein.
Ah, c'est un peu triste, ouais.
Tu vois que la bière est moins chère que l'eau, c'est triste.
Ouais. Ouais. Bah en même temps, on est en Belgique, du coup.
C'est comme en République tchèque d'ailleurs, mais ça, c'est à cause de l'eau qui était fortement infestée et à Prague, une bière toujours moins chère qu'une bouteille d'eau. Et pour rebondir là-dessus, pour revenir aux bières un peu pourries, la semaine dernière, j'ai tenu un bar pour la fête de mon village. Et je me suis rendu compte qu'on a servi de la Météore, qui est pas non plus une grande bière, mais quand il fait chaud en pression, ça passe tout seul. Hein. Quand tu vois le nombre de piliers de bar que j'ai servi et que j'ai dû faire 4 fûts de 30 litres, c'est que les gens apprécient. Mais sans pression. Donc ta carapace, c'est juste en compression, elle passe toute seule. Comme de la Stella.
Mais là, je suis en train de checker parce que je viens de voir. En fait, il y a moyen d'avoir des carapaces. Ah, que je dise pas de bêtises, à 37 centimes la canette.
Oh.
Mais c'est une horreur. C'est 37 centimes pour le 50 centilitres.
Oh, Harry, tu me vends du rêve.
Ah non, mais, alors là, très sincèrement, ça sent le vomi. Donc, donc essayez d'éviter. Ouais. Enfin, moi, j'entends.
C'est du recyclage. C'est peut-être du recyclage. Et Marc Morgan, t'as pas oublié de nous poser une question.
Oui. Et étant donné, alors je vais pas poser une question comme d'habitude. Donc toi Harry, qui connais pas bien, nous sommes à la, enfin Aristote, nous sommes à, enfin, c'est tant mieux, on va pouvoir philosopher. Non, je rigole. Non, d'habitude je pose toujours un peu des, enfin j'essaye de poser des petites questions et qu'on répond tous.
Quels sont les numéros de ta carte bleue?
Non, là ça va être une question. Là, ça va être une question un peu plus terre à terre. Vu qu'on est tous des podcasteurs et qu'on a un invité, je voulais vous poser à chacun la question. Quel a été comment êtes-vous arrivé dans l'univers du podcast? Quel est le premier podcast que vous avez écouté?
Ouh. Ah, le tout premier.
Qu'est-ce qui vous a fait faire écouter du podcast?
Alors, moi, je peux te parler.
Avec lequel? Vas-y.
Je peux te parler d'un podcast qui m'a vraiment passionné ou pendant des mois et des mois, j'ai fait qu'écouter ça. Donc, c'est un podcast qui vient du Québec, qui s'appelle Les Mystérieux Étonnants. Et en fait, c'est des mecs qui parlent de culture populaire et ils se réunissent entre amis une fois par semaine. Et en fait, au début, t'écoutes parce que tu as les informations d'actualité sur la culture populaire quand c'est des sujets qui t'intéressent. Et puis, petit à petit, en fait, tu reviens non pas pour les infos, mais parce qu'en fait, chaque personne de l'équipe, c'est un peu un personnage, quoi. Et tu reviens parce qu'ils ont toujours des anecdotes sur leur vie. Ils racontent la fois où un jour ils ont essayé de sauver une femme et d'un mec qui était drogué qui s'est drôlé dans la foule. Ils racontent le fait qu'il y en a au mariage d'un autre qui s'est levé tout nu la nuit parce qu'il dormait dans une sorte de château et qui s'est trompé de chambre quand il est revenu des toilettes. Enfin, tu vois, t'as ce genre d'histoire. Et en fait, après, dans les autres podcasts que j'ai commencé à consommer, t'as la même chose, en fait. Finalement, tu suis les podcasts non pas parce que, même si le sujet t'intéresse, au bout d'un moment, ça devient secondaire. En fait, tu reviens parce que t'as l'impression de partager un truc avec des potes.
L'ambiance.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est pour ça, moi, c'est grâce à eux. Après, bon, il y en a d'autres qui m'ont donné vraiment envie. La fucking Kermesse, on en avait parlé un petit peu ensemble.
Mais comment tu les as découverts? Donc vas-y, comment t'es arrivé à écouter des podcasts? Parce que c'est quand même un truc un peu spécial, hein, écouter de l'audio dans un monde où faut toujours avoir la vidéo.
Alors là, je vais devoir un petit peu réfléchir.
Alors,
comment je suis passé à ça?
Si tu veux, tu reviens plus tard. Hein, on va.
Je vais réfléchir à cette question-là sur comment je me suis mis à les écouter. Ah si, je sais. Je viens de trouver. Ils avaient fait c'est un petit peu pointu, mais ils avaient fait une interview de... Alors, je crois que c'était Jim Starlin. Donc, Jim Starlin, c'est un auteur de comic book qui a fait, entre autres... enfin, beaucoup de choses, mais en gros, c'est le créateur d'Adam Warlock et de Death of Captain Marvel, qui, pour les fans de comic book chez Marvel, est un moment très important des 70s. Et ils avaient fait une vidéo YouTube où ils lui posaient 2-3 questions. Et après, à la fin de la vidéo, ils disaient qu'ils avaient aussi un podcast audio. Et je crois que c'est comme ça. Je crois que c'est via ce biais-là que j'ai commencé à les écouter. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est, ils font d'autres choses et en même temps, ils en parlent, quoi.
D'accord.
Après, bon, bah, quand t'en écoutes un, t'en écoutes deux, t'en écoutes trois.
Ouais, après, tu tombes dedans, quoi.
Bah, voilà, après, tu tombes sur des perles comme, bah, je vais leur citer, mais la fucking Kermesse qui, en podcast francophone, qui est sortie de nulle part de ces derniers temps, je trouve que c'est,
Ah, c'est très drôle.
C'est, ils sont excellents.
Quand t'entends le générique avec Flunchy, c'est bon, t'es dans l'ambiance tout de suite, quoi.
Moi, je connais pas du tout, mais je me dis que peut-être que John pourra mettre les notes dans l'émission.
Flunchy.
Flunchy. Je peux pas répondre totalement parce que Flunchy, ça fait partie d'un peu de mon dossier là, mais je ne peux pas. C'est soit toi, soit DK. Enfin, ah, pour le moment, je vais bien mettre.
Je mettrai les notes, je mettrai le lien pour la fucking kermesse.
Je ne peux faire que du copier-coller.
Ok. Bon, alors je vais enchaîner, hein. Donc, mais bon, après j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, j'ai l'impression, mais
je sais pas moi.
Ah bah j'ai eu deux vies de podcasteur.
Ah oui.
J'ai commencé à écouter des podcasts tout simplement parce que j'ai été pendant un petit moment modérateur sur un forum sur un truc diamétralement opposé à l'apéro des papas en chaud. J'étais modérateur sur un forum de foot.
Ah oui, quand même.
Et, okay. Bah, y a de la bière aussi, hein.
Oui, bah, y avait la bière. Au moins, ça s'arrête à moi. Voilà.
Ouais, mais y a pas de manchot.
Y avait pas de manchot.
Ah oui,
et ça fait du bien. Mais y a certains joueurs de foot qui sont des manchots. Et,
et bim.
Et un jour, y avait eu un site qui s'était ouvert et qui avait mis des liens et tout. Et puis, il faisait un podcast. Mais je te parle de ça, c'était en 2005. Donc, il y avait pas vraiment les
flux. Ah ouais, RSS. C'était la naissance du podcast,
même. Ah ouais, non, mais il y avait même pas encore de flux RSS, ni rien.
2005, c'était quand Docteur Who ressortait, quoi.
Ouais, ouais, et en fait, quand tu vois ça de ce point de vue-là, ça semble il y a une éternité, quoi.
Ah ouais, non.
C'est incroyable.
Et, j'écoutais ça, puis c'était monté un peu à la branle, un peu à la mort moelleux, c'était avec une table de mixage, c'était monté en quatrième vitesse, mais il y avait de bonne ambiance, et comme tu dis, il y avait des personnages marrants, et il cherchait quelqu'un en catastrophe pour un épisode, parce qu'il manquait il voulait toujours être quatre, et il manquait un peu un quatrième, comme une belote, et, en gros, j'ai fait le Joker, et puis, je suis resté 6 ans avec eux. Et on a commencé d'un petit studio, c'est pas vraiment un studio, mais c'était une espèce de chambre dans un local étudiant. Et ensuite, on a terminé dans un vrai studio et on a été diffusé en FM. Et j'ai réalisé le rêve de beaucoup de gens qui aiment le sport, c'est de commenter des matchs de foot en direct. Et pour nos chers auditeurs belges, j'ai rencontré Hélène Hazard.
Ah,
à plusieurs reprises.
On y revient.
Voilà. Donc, ça a été une grande expérience. Après, il y a eu un gros trou, puisqu'entre 2011 et fin 2014, il n'y a rien eu. Mais en fait, j'ai eu un changement de carrière professionnelle. Et, j'en avais marre d'utiliser Windows sur mon ordinateur à cause de ces cochonneries de mise à jour. Et je voulais m'intéresser au système d'exploitation alternatif comme ce qu'on appelle des distributions Linux. Et j'ai commencé à écouter un podcast qui n'existe plus maintenant par un de mes mentors, qui est belge d'ailleurs, qui s'appelle Captain Posix. Ouais. Et il faisait un podcast qui s'appelait Parole de Tux. Et il disait toujours « Ah, faites une pastille, on a besoin de contenu » parce que eux, c'était un peu comme nous. Hein, le podcast, il était beaucoup... un petit peu préparé par le capitaine, mais beaucoup improvisé par les deux autres. Et de temps en temps, quand ils allaient chercher des bières dans le frigo, ils aimaient bien mettre une pastille, et puis finalement...
Et le la moins chère de Belgique, comme tu nous disais tout à l'heure.
La fameuse carapilice.
Voilà. Et, ils ne buvaient pas de la carapilice. Hein. Non, non, non.
Donc, ton premier podcast que tu as écouté, Enfin, pas que parce que toi, ça a été un parcours un peu spécial, parce que tu l'as produit avant d'écouter.
Et ensuite, je l'ai produit.
Ouais. Voilà. Et du coup, le premier podcast que t'as écouté?
Ça s'appelait, si je dis le nom, vous allez savoir de quoi je parle, et comme je sais que j'ai eu des problèmes avec certains clubs de foot, je sais pas si j'ai le droit de le dire.
Ah.
Donc, voilà.
Ok.
Voilà. Et puis, donc, comme il veut continuer à se réapprévisionner en Belgique.
Voilà. Non, c'est pas un club de foot belge, hein, donc, voilà.
Oui, mais bon, hein.
Français, mais bon, il y a eu des procès parce que on avait soi-disant pris leur nom. Parce qu'ils avaient déposé une marque, etc. Donc.
Je dis ça, mais encore cet après-midi, j'ai quelqu'un m'a envoyé le lien d'un vendeur de t-shirts qui ont fait un t-shirt La Cabine Bleue, mais qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui parle de Doctor Who. Enfin, c'est un t-shirt avec le TARDIS. Et du coup, j'étais, ok, est-ce qu'ils l'ont fait après notre émission? Enfin, on n'a pas non plus le nom le plus original, mais du coup, pose le problème de pouvoir. De pouvoir, si on veut faire du merchandising, genre faire des t-shirts, des autocollants, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, en fait? Si on n'est pas les premiers à s'appeler comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué.
Attention, toi, ton logo, il a été dessiné par quelqu'un.
Oui.
Et cette personne, est-ce qu'elle a déposé le logo quelque part? Je ne sais pas. Si elle a mis un brevet ou un copyright dessus.
Je pense pas, parce qu'en fait, c'est un des membres de PodCloud, en fait, qui écoutait notre émission et qui nous a fait le logo.
Donc si ça se trouve, tu peux le réutiliser comme ça.
Ouais, maintenant ici, bon, s'il faut que je réutilise d'autres manières, on a dans notre équipe deux mecs qui font de la, de l'illustration et de l'infographie, donc ça, c'est, nous de ce point de vue-là, on est assez couvert, quoi, donc ça va plutôt bien.
Non, mais toi là-dessus.
Mais après, faut faire attention que personne ne le réutilise à des fins commerciales, quoi.
Voilà.
Ouais. Oui,
c'est
plus compliqué.
C'est toujours reproché, alors qu'on n'a jamais gagné un centime là-dessus. Voilà.
Ouais. Mais des bières gratuites, hein, donc voilà. C'est pareil.
Mais
hein.
Le truc, c'est que le nom du podcast avait été déposé avant que eux l'utilisent.
Ah oui, ok.
Et il avait été proposé, on s'appelait Bip Bip, et eux, ils ont décidé que, comme ça les intéressait, ils ont sorti un magazine qui s'appelait Bip Bip. Donc, le podcast rentrait en concurrence avec la marque qui a été déposée par eux, alors que c'est nous qui l'avions créé.
Oh là là.
Tu vois un peu le truc.
Ah ouais, ok.
Voilà. Donc c'est pour ça que, c'est comme ça. Mais bon, ma vie est très compliquée. Donc, un jour, je ferai un podcast sur ma vie. Et ça fera une saga de 89 heures. Et vous écouterez, vos petits enfants écouteront ma vie.
Et ça sera juste de l'intro.
Voilà. Et ça comme sera à la juste de l'intro. Perdu, tu sais, une saga.
Mais si je peux juste oui, oula, parce que Doctor Who c'est pas terminé. Je sais pas si ça aura une fin. Mais juste si je peux me permettre juste une petite parenthèse, parce que là on parle de podcast et en fait, j'invite vos auditeurs en fait à s'intéresser également à plein d'autres podcasts. C'est-à-dire que il suffit de penser à un sujet, t'es presque certain qu'on pas de point. Il y a des podcasts qui sont reconnus d'un point de vue international. Comme par exemple Welcome to Night Vale, qui est une sorte de...
Ah oui! Bienvenue à Val Nuit!
Oui, il y a eu sa version francophone, mais qui a en fait une sorte de Twin Peaks un peu chelou. Enfin, c'est...
Pour dormir, c'est génial.
Oui, en fait, c'est plus... Tu le mets pour avoir une ambiance de fond, et ils te racontent des trucs un peu étranges. Ils ont même sorti des bouquins.
Est-ce que c'est de l'ASMR?
Non.
Alors pas volontaire, mais ça peut te mettre dans un effet
ça
quand
fait
même.
Le même effet.
Non.
En tout cas, ça te repose parce que le mec il me dit tout ça sur un ton très très calme. Mais il y a plein d'autres trucs. Alors il y en a un dont je me souviens plus le nom, mais qui était numéro 1 pendant tout. Je crois que c'était en 2015.
Mais les recos c'est plus tard. Hein.
Ouais voilà, t'en as déjà donné un, Harry. On en a quelques uns à poser. Hein, donc. Mais
alors. John, juste
John,
du coup,
tu n'as pas répondu à la question.
Oui.
Non plus, Morgan.
Et John, du coup, toi, juste, j'ai bien compris que tu voulais pas dire quel est le premier podcast que t'as écouté, mais
non, TK.
Non.
Ah,
non.
J'ai cru que John, tu voulais pas le dire parce que tu voulais pas griller tes cartouches pour la reco.
Quelle reco?
Les recommandations.
Non, j'ai dit je ne peux pas écrire.
Ah.
Pour la recommandation, j'en ai plein.
Non,
en niveau de podcast, j'en ai plein. Donc, je dis rien, j'essaye de trier.
Réponds à la question.
Alors, le premier, j'hésite.
Bah, le premier. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, enfin, quel a été le premier, mais surtout comment t'en arrives à écouter des podcasts.
Comment? Je cherchais. Mais je crois que c'était des histoires parce que la lecture. Quand je suis pendant un moment, j'aimais bien me mettre à l'air et j'ai du mal à
te
lire
mettre.
Dehors.
C'est quoi être le... J'allais dire le zizi à l'air, mais le...
Non. Ça, je réussis à lire quand elle est. Non, ça va. Il ne bouge pas la vue. Je t'assure. Non, mais pour écouter des histoires ou par exemple, je me rappelle plus. Enfin bref, pour j'ai cherché des livres en fait. Et je crois que c'était Audio Dramax, ça s'appelle, qui sera dans les recommandations aussi. Et ça n'a rien à voir. C'est en fait, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un podcast avec plusieurs histoires SF, mais racontées comme si c'était à la radio.
Ah ok.
Et il y a Eden Sacrifice, c'est l'un des derniers que j'ai écouté. Je crois que ça s'arrête depuis quelques temps, mais c'est toujours dispo. Qui, par la suite, ont fait des CD.
Oh, des CD! Ah ouais, c'est vieux.
Des CD, oui. Non, mais c'est le système autour du libre, on va dire. Je retrouve plus le mot exact et je veux dire de bêtises. Je peux pas me connecter sur le site. Mais voilà, ils ont vendu par la suite. Après, bon, le même... Il y a eu la période Parole de Tux.
Ok, mais et comment t'en arrives à écouter? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui a fait que t'as... Parce que c'est quand même spécial d'écouter de l'audio.
En fait, pas trop.
Pas trop.
Non, parce que, tu vois, par exemple, rester longtemps, on va dire, sur une page web à lire, etc., sans rien faire à côté, on va dire, ça, c'est très monopolisant, on va dire. J'arrive pas à trouver le bon terme, mais... Enfin, quand tu regardes, tu lis ta page web sur ce qui t'intéresse, tu ne peux pas faire autre. Tandis que l'avantage du podcast, de manière générale,
c'est en termes de fond, on va dire.
Le nombre de fois, moi, où j'ai joué aux jeux vidéo en écoutant des podcasts.
À faire le ménage, sais-je.
Je pense que c'est l'activité principale des auditeurs de podcasts.
Voilà. Après, il y a certains podcasts où
peut-être que des gens nous écoutent sur les toilettes. Hein.
Ah, peut-être bien. Et
sur le toilet déjà fait.
Bon courage à vous si vous êtes dans cette phase difficile.
Ça pousse.
En mode gastro.
Non, la phase difficile, c'est le suivant. Celui qui n'écoute pas le podcast et qui arrive après. Mais ça me permettait d'écouter. Puis pareil, par hasard en plus. Je crois que je cherchais même des vidéos à la base. Quand je suis tombé sur les trucs audio.
Ok. Je vais finir par moi rapidement. Alors juste, moi en fait, j'ai découvert c'était sur une chaîne YouTube. Je regarde, en fait, c'était une conférence qui avait lieu. C'était genre Hack in Paris ou je sais pas quoi, enfin un truc. Et c'était tombé sur un mec qui était un gros barbu qui faisait des trucs sur l'Arduino. Et j'étais ado et je m'intéressais à la programmation et la programmation machin. Puis du coup, je regardais son truc et ça m'avait intéressé au sujet de l'Arduino. Du coup, j'ai suivi sa chaîne. Il y avait une chaîne où il faisait des podcasts, YouTube, vidéo. Et ça s'appelait La Grotte du Barbu. Il a encore en activité,
oui.
Le bonhomme.
Bozor.
Tout à fait.
Mais il ne fait pas que de l'Arduino.
Non, il fait pas que de l'Arduino. Justement, il faisait plein de trucs. Genre, il faisait des casques son et tout. Enfin, bref. Et des fois, il se foirait complètement dans ses expériences, ce qui fait trop. Enfin, voilà. Et du coup, lui, sur son site, parce qu'il a eu des périodes dures et tout, genre, enfin, voilà. Bref, il tenait un blog. Et sur son blog, il mettait un lien vers ses podcasts favoris. Et j'ai commencé par écouter, ses podcasts à lui. Donc, lui, on va dire que c'est le premier podcasteur, mais c'était vidéo que j'ai suivi. Et un des premiers un des podcasts qu'il a recommandé et que j'ai écouté en premier, ça s'appelait Basingcast. Et voilà, c'est des podcasteurs qui étaient très connus, genre ils ont fait des épisodes vraiment bien.
Ah, j'étais tombé sur ces mecs-là. Un jour, alors j'étais tombé sur un épisode, je veux pas les critiquer, mais où c'était en gros des remerciements de dons et tout, et du coup ça avait pris pas mal de temps. Du coup, j'ai pas persévéré, quoi.
Ok, moi l'épisode où je suis tombé dessus, en gros c'était ils avaient invité des musiciens, des musiciens indépendants, des musiciens un peu plus pros, des mecs de Deezer, des mecs, et ils parlaient en fait justement de la musique, le streaming de la musique avec la logistique, et ça avait tous les points de vue, c'était super intéressant. Voilà, ah bon, moi je l'ai trouvé pour le coup sur un super épisode et du coup j'avais kiffé et j'ai regardé ses autres recommandations qu'il avait et il y en a certains qui sont maintenant dans les top podcasts que je vais vous recommander. Voilà, voilà. Okay. C'était pour mon petit pas. J'ai l'impression que la suite du programme c'est les recos.
Eh ben ouais, finalement, on n'a pas trop... On pensait qu'on allait vraiment déraper, mais finalement, on aura peut-être même le temps de parler de tes geekeries, peut-être en fin d'épisode. Alors,
C'est à qui les geekeries du MOC?
Ah, ça, c'est... Les geekeries du MOC, c'est par rapport au...
Ah bah
c'est,
oui,
c'est toi
on
ou
peut
c'est
lire un commentaire.
Ah, oui, oui, on pourrait lire un commentaire aussi qu'on
ah
a
ouais
lu. Ouais, ouais, qu'on a eu la semaine dernière.
Ah ouais, un commentaire.
On a eu un commentaire. Bon, allez, je vais le lire et après on fera les recommandations. Alors, c'est de...
Popol.
Popol, voilà, c'est ce que cherchait le... C'est
toujours ah, le fameux Popol.
Voilà, ouais. C'est toujours qui me fait toujours rire.
Bonjour.
Bonjour Popol. Donc, salut à vous, petit mot sur le MOOC. Je suis bientôt... J'étais auditeur du Conservatoire National des Arts et Métiers et nous avons eu un cours à suivre en MOOC pour nos UE. Alors moi je ne suis plus étudiant, je ne sais plus ce que c'est. Un UE. Au final, l'UCOL a fait un examen sur table dans les locaux régionaux pour valider les cours, et pas un QCM moyen en ligne où on peut tricher. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Oui, ça c'est parce qu'on avait parlé un petit peu des certifications autour des systèmes d'exploitation Linux, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop Linux, c'est très utilisé dans tout ce qui est serveur informatique, et il y a beaucoup d'administrateurs de réseau qui aiment bien avoir des distributions Linux pour gérer des machines qui gèrent des réseaux, pour faire assez simple. Hein. Et donc pour valider leurs compétences, ils peuvent passer des examens qui s'appellent les LPIC, Linux Professional Institute Certificate, et on parlait un petit peu de ça lors de nos différents épisodes. Donc, je remets un petit peu ça dans le contexte pour ceux qui n'écoutent pas l'apéro des papas manchots. Du coup, pour répondre au financement, un coup de pub pour l'école. Deux, c'est un nouveau support d'enseignement. Donc, puisqu'en fait, les MOOC, c'est des cours qui sont mis à disposition de manière libre et gratuite, mais en même temps, ça fait de la pub pour les universités en elles-mêmes. Sauf que bon, le MOOC auquel on a participé, John, Fabrice et moi, on a eu des avis un peu mitigés sur le contenu.
Bah, on peut le dire, on a été déçus tous. Après, chacun de notre vision.
Voilà.
Sur voilà différents points.
Voilà.
C'est mais pas... de manière générale, on est déçus sur celui-ci en particulier.
Voilà, on a eu des avis un peu mitigés de manière générale. Enfin, les mines télécom de je sais plus où ont fait un examen payant à la fin de leur MOOC où il fallait montrer un examinateur en ligne avec une webcam, son bureau, dessus, dessous, de côté, et après, il fallait laisser la cam active durant l'examen. Et c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Ça a donné aux ingés 2 points de plus dans les yeux de leur cursus. Voilà pour quelques précisions. PS, DK, où en est ta borne d'arcade? La borne d'arcade, pour l'instant, elle est en mode gros frais puisque voiture tombe en panne. Voilà.
Ah, c'est bien dommage, ça.
Ah, DK, on est en train de, on monte un Fab Lab à Chambéry, là.
Ouais.
Ça bouffe pas mal d'énergie, mais, un des projets qu'on a, c'est faire la borne d'arcade.
Alors, si tu veux des plans, j'en ai plein.
Ok, en fait,
si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
Ah oui, on va faire un atelier
faire
ou
des ce qu'on appelle des tabletop, des tabletop avec un support pour la faire monter en hauteur. Ah ouais, j'ai plein de plans.
C'est génial.
Vas-y, envoie parce qu'en gros, on va vraiment faire un atelier genre à 7-8 personnes. On va la construire, mais seulement moi j'ai budgété le truc là parce qu'il faut faire payer les trucs. J'ai budgété le truc à 500 balles quasiment.
Ouais, ça m'étonne pas.
En
avec
tout
le Raspberry, les joysticks, les machins.
J'allais dire par personne.
Avec le chauffage. Non, par personne. Abonnés, hein. 500 balles par personne.
Ouais, non, mais si tu veux une vraie borne bien costaud, tu prends les boutons de marque, je sais plus la marque, je te le dirai. Il y a une marque japonaise qui fait des boutons pour borne d'arcade. Et vu que là-bas au Japon ils jouent comme des tarés dessus, faut prendre ces boutons-là. Hein. Parce
mais
que
non,
eux
c'est
ils
le
jouent
skill
avec des
c'est
ils
le
jouent
skill
avec des briquets, ils tapent avec les deux boutons en même temps pour tout ce qui est shoot them up. Et donc ils te défoncent les boutons. Et si tu prends pas cette marque-là, tu risques de défoncer les boutons. Donc après que tu prennes des luminés ou pas, ça c'est pas une question, mais.
Mais tu l'avais budgété à combien ta borne d'arcade?
600-700. Mais parce que je voulais des stickers. Ouais. Hein. Je voulais faire des stickers personnalisés. Hein.
Ouais, donc c'est vraiment un projet cher, quoi.
Ouais.
Bah après, ça dépend ce que tu bornes, en fait.
Voilà, je voulais mettre
ta borne est borne.
Non, mais ce que je voulais mettre aussi, c'est comment ça s'appelle, des néons. Liner, je crois que ça s'appelle
des néons. Non, et la musique Fast and Furious.
Trop fané sur la vitre. Tu vois, avec un éclairage né à LED derrière et tout. Hein, donc je voulais faire un truc.
Un beau truc de bar, quoi.
Ah, un truc, voilà.
Enfin, de salle d'arcade.
Voilà. Il manquait plus que le cendrier Stella pour mettre la cigarette dessus, tu sais.
Ah, non, bah, sacrilège.
Ah, mais t'as pas connu les bars. Bah oui, mais dans les années 80, ils avaient des, il y avait certaines bandes oui, avec des,
je m'en
des
souviens. Cendriers, hein. Et ah, puis là, ouais. T'avais des sauvages qui l'a laissé trop près ou qui s'étaient trop dessus. Et puis après, le bouton, il était brûlé. Et va jouer à Street Fighter quand t'as le
avec
bouton qui est brûlé.
Avec ton bouton à moitié brûlé, ouais.
Hein? Ouais, la corne sur les doigts. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, tu maudis, hein. Bon, ah, ça m'a pas empêché de fumer, mais
ouais. Mais bon, juste pour juste bifurquer 30 secondes sur les flippers et bornes d'arcade. En Belgique, j'ai déjà vu des espèces de flippers, un truc que j'ai jamais compris, c'est les flippers avec les trous où il y a pas de flip. C'est quoi ces
flippers? Bah ouais, non, j'ai pas compris non plus. Mais c'est plus des trucs de jeux d'argent en fait. C'est un peu comme des sortes de pachinko ou de trucs de pousse-pièces là. Ouais. C'est un peu genre de truc, je crois. Et en fait, tu récupères des points ou je sais pas quoi. C'est comme les sortes de flippers, mais sinon il y a pas de bouton, rien. C'est juste tu fais tomber des trucs et t'as des plots et ça doit rebondir dessus. J'ai jamais compris ces trucs là.
Y a que des pêches pour inventer des trucs pareils, non?
Ah voilà, je...
on a quelques-unes inventions nous aussi.
Oui.
Je veux bien
oui.
défendre la Belgique, mais c'est pas tous les jours facile.
Hein. C'est bien, je reconnais quelques erreurs.
Nous,
quand même, bien.
Nous combattissons, ne t'inquiète pas.
Voilà. Merci bien.
C'est un truc qui m'a toujours fasciné à la frontière. Il y a une ville dans le nord de la France qui s'appelle Aluin. Et en fait, à Luin, t'as un coup, t'es en France et tu fais 50 mètres, t'es en Belgique. Et le premier café où tu rentres en Belgique, il y a ce truc à l'entrée, dans le café. Et déjà, ça fait des années qu'il est là, ce truc-là. Et j'ai jamais vu personne y jouer.
Mais ah ouais, non, mais les gens ont de la nostalgie, quoi. Ils veulent pas se séparer de ces trucs-là. Ah,
c'est pas parce que t'as vu personne y jouer, c'est parce que quand tu passes devant, il y a que les habitués. Donc ils savent que qu'ils vont perdre des sous, ils n'y jouent pas.
Ils sont déjà fait avoir avant.
Voilà, c'est ça. Ils attendent.
Fait avoir de la ah mince, j'ai toujours oublié encore.
La Carapils, la bière dégueulasse.
Voilà. Non, une bonne Pétrus.
Voilà. Bon, on va enchaîner quand même sur les recommandations. Et si on a le temps, Morgane nous parlera de sa saga téléphone. Allez, qui veut commencer pour les recommandations au niveau des podcasts? Bon, s'il y a personne, je veux bien commencer.
Bah, je me lance.
Vas-y, John.
Alors, en podcast, donc il y a Audio Dramax en un seul mot. Mm-hmm. Donc audio et Dramax DRAMAX.com. Mm-hmm. C'est le site internet, c'est les histoires que je disais tout à l'heure, donc par épisode, c'est très court.
Mm-hmm. Très court, c'est quoi? Très court.
Je crois que le plus gros épisode pour le truc c'est 15 minutes, je crois.
Ah oui,
ah mais c'est pas suffisant pour s'endormir ça.
Non, mais c'est vraiment de belles histoires. Après, rien ne t'empêche de récupérer les flux et de l'assembler ou de commander le CD s'ils le font toujours d'ailleurs.
Ah ça me revient. Je suis désolé, je te coupe. En vrai, le premier podcast que j'ai écouté, ça compte pas trop, c'était Donjon de Marlbeuk.
Ah oui.
Vous avez connu?
Ce qu'on appelait à l'époque les Sega MP3.
Mais oui.
Mais ouais, enfin c'est. Moi, je préférais Reflet d'Acide dans le même style, mais ça commence à dater. C'était quoi? C'était 2003,
c'était 4. J'étais collégien, donc te dire.
Ouais, ça devait être quelque chose au début des années 2000, quoi.
Ah oui, c'est pas récent.
Ah non, du tout.
Non, bah, je connaissais pas du tout.
Tu connaissais pas Donjon Narveuf? T'as jamais entendu parler?
Non.
Mais il y a des BD,
il y a même la BD, ouais. Ouais.
Ah, non, il y a même des jeux de société et tout, je te jure.
Et les BD se vendent vraiment bien, hein, donc.
Non, je me suis fait les Mystères de Paris, moi, à la place, donc.
Les Mystères de Paris?
Ouais, c'est un vieux livre. Ah, bah alors le truc, il y a 3 tomes, hein, c'est 12 ou 13 heures de livre audio, hein, donc. Ouais, là tu peux t'accrocher. D'accord. T'en as pas une autre recommandation, Jen?
Oui,
excuse-moi,
donc il y a plusieurs histoires en fait. Donc celle que j'ai commencé, c'est Eden Sacrifice.
Ouais.
Ça se passe dans l'espace.
Mmh.
Et en fait, c'est un. Alors comme ça remonte, je ne saurais plus très bien, mais c'est un couple donc. Mmh. l'homme se réveille, mais il n'était pas censé se réveiller.
Il
c'est
n'a
un
plus
accident.
Phallus.
Non, non, il n'est pas censé se réveiller tout de suite. Ça ressemble un peu au film.
Ouais, ouais, film qui sort en décembre là.
Voilà.
Passenger.
Passenger. Oui. C'est dans le même esprit, on va dire, mais vraiment okay. De manière très large. Hein. Après le, alors tout ce qui est bande son et tout, c'était génial. Voilà, après il y a un petit peu il y a plusieurs séries, il y avait Tide, il y avait Andromède et voilà, mais c'est des histoires comment dire créées, c'est pas des par exemple je sais pas, on va dire Les Misérables racontés.
Mmh. Ah oui, OK.
Donc en fait vraiment des créations quoi.
D'accord. Okay. Non, c'est pas un livre qui est lu, c'est une histoire qui a été faite pour l'audio.
C'est voilà.
Vraiment, voilà. D'accord.
Après, ils ont fait plusieurs trucs, donc en audio. Après, et là, ça va faire plaisir à Morgan, c'est l'agence Too Geek.
Bah, moi, ça me ferait plaisir.
Laisse-moi finir. C'est le dernier épisode que j'ai écouté. Je vais vérifier avec mon lecteur de podcast. C'est le numéro 68, je crois, qui parle d'intelligence artificielle et où on parle de FPGA.
Ah, c'est... sérieux? Ah!
Oui, oui, légèrement, hein. Alors, c'est le numéro 82 de l'agence Too Geek. Et il y a un monsieur de chez Intel, Michael d'Intel et Fabien de Cyberdroid pour parler d'intelligence artificielle. C'est à peu près 2 heures d'émission. Non, 1h30, pardon, 1h30. Parce que j'ai changé l'affichage de mon lecteur et donc j'ai un petit peu de mal. Mais super quoi, c'est
en général c'est, voilà, ils sont bons les épisodes de l'agence Too Geek. Hein.
Voilà, c'est de toute façon c'est Mister D, c'est Lord ton père.
Ouais.
Il y a Post Carbon.
Mais c'est 2 heures de contenu intensif ou c'est 2 heures avec un peu de rigolade?
Ouais,
c'est parfois très intensif hein, l'agence Too Geek. Ça dépend. Voilà. Ça dépend des invités qu'ils ont. Moi je me souviens d'une discussion sur les ovnis. Où là c'était vraiment intense débat et preuve contre preuve, où c'était, on avait l'impression d'être dans un procès presque, mais vraiment un procès intense. Voilà. Mais ça dépend beaucoup des invités, mais c'est vraiment passionnant.
Mais là pour le coup c'est vraiment en fait je l'ai pas fini de l'écouter, mais j'ai écouté à peu près 1 heure d'émission, donc il me reste plus grand chose. Et c'est d'un côté.
Tu les écoutes souvent, 2 fois les podcasts, toi?
Ça dépend. Bah là, pour le coup, c'est à cause de la charge de mon téléphone, mais.
Ah ouais.
Pour le coup, c'est d'un côté l'intelligence artificielle bas niveau, et en fait, ils essayent d'expliquer. Enfin, ils expliquent très bien d'ailleurs. Enfin, moi, je comprends ce qu'ils disent. Donc voilà, d'un côté le bas niveau, donc c'est ce qu'on va classer dedans, ça va être Siri de chez Apple, Alexandra, ça s'appelle Alexa de Amazon.
Et j'imagine aussi Cortana de Windows.
Oui, voilà, enfin ce niveau, enfin cette intelligence là qui est de bas niveau. Et ce que Intel après a comme ambition via son porte-parole après de ce qui est au niveau, donc je vais faire un raccourci, mais comme j'ai pas tout entendu, c'est apprendre à tâtons, hein. Par exemple, qu'est-ce que ça donnerait si, pour que ça devienne au niveau, du haut niveau donc, que Alexa par exemple ou Siri discute directement avec le système embarqué de la Tesla par exemple, et directement sans que ça reste cloisonné à une tâche précise et que elle apprend par elle-même.
Il y avait je vous conseille justement sur alors c'est une recommandation mais c'est dans le sujet du coup je me permets quand même sur l'intelligence artificielle, il y a une super vidéo, justement, c'était pour montrer l'ordinateur qui servait à l'intelligence artificielle d'Intel, mais c'était il y a quelques années, où en fait, ils avaient organisé une séance de Jeopardy.
Oui.
Donc oui, un peu
Jeopardy. Ils en parlent aussi dedans dans le podcast.
Ah ben voilà, ben en gros, donc Jeopardy, pour ceux qui ne savent pas, c'est on donne une réponse, faut trouver la question, et en fait, le robot était incroyable d'efficacité en fait sur ce truc là, c'était vraiment, et c'était genre il y a presque 10 ans.
Mais c'est comme la vidéo de qui a vu montrer un peu comment le robot de Google apprenait à jouer au
au
jeu de l'Atari 2600.
Non, non, oui.
Au jeu
et
de
maintenant,
l'Atari 2600.
Mais ils en parlent aussi en fait.
Il apprenait de ses erreurs et après c'est impressionnant, c'est que il jouait mais à une vitesse mais hyper rapide, et au fur et à mesure, même si ça se passe super vite, tu te rends compte que il a compris la mécanique du jeu. Et par exemple le Space Invaders, il va te le démonter en 10 secondes, même les niveaux les plus difficiles, mais il apprend ça en 5-10 minutes, tu vois.
Et,
non, c'est la vidéo est assez impressionnante comme ça. Bon, tu la fais pas forcément en un coup, mais tu dis ok, à 8 minutes il tourne le truc, il va que à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, et puis après tu te rends compte qu'il va à gauche, à droite, au milieu, il reste un peu plus au milieu, il attend que le vaisseau il descende, il a compris que ils allaient toujours de gauche, droite, et ta 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 ta, après il arrivait à taper dans les trucs, il détruisait les petites bases pour arriver à... Mais c'est vraiment très très impressionnant. C'est plus impressionnant que le chatbot qui avait été mis sur Twitter par Windows il y a quelques temps et qui est devenu
raciste.
Qui est devenu raciste et adepte de la politique de Trump en 3 ou 4 heures. C'était sympa. Et juste avant quand tu parlais d'Ovni tout à l'heure, et je l'ai pas mis dans mes recommandations, il y a un podcast belge sur le scepticisme scientifique. Et d'ailleurs qui s'appelle Scepticisme scientifique, et c'est assez sympa. Il y a le dernier épisode sur la sorcellerie qui est assez marrant. Donc et c'est Jean-Michel Abassard qui anime ça avec un Jérémy, et dont malheureusement je sais plus le nom. Et ils sont président du groupe sceptique belge. Et c'est assez marrant parce qu'ils participent notamment régulièrement à des émissions de télé comme C'est mon choix ou quoi. Et à chaque fois ils racontent que bon, ils y vont juste parce qu'ils aiment bien se moquer des invités qui croient qu'ils ont vu la Dame Blanche et je ne sais quel autre personnage mystique ou des fantômes, et que finalement bon bah ils arrivent à démonter facilement le truc, que bon, ça peut être toutes sortes de phénomènes, sauf paranormal, quoi. Donc c'est assez amusant à écouter. Et John, est-ce que tu avais une autre recommandation
pour
le podcast?
Oui, oui.
Ah bah je te dis.
Alors, dit, John, cette fois, donc...
On va pas essayer d'en faire plus de trois, quand même.
Ouais. Alors là, comme je disais, l'agence Too Geek, là pour le coup, il reparle un petit peu de tout, et mine de rien, on apprend sans même s'en rendre compte. Et puis ça donne envie d'aller chercher après sur d'autres sujets qu'on n'aurait jamais imaginé rechercher, enfin qu'on n'y aurait pas été de nous-mêmes. Après dans le côté tranche de vie, on va dire, il y a le dernier podcast, le dernier cyber avant la fin du monde. Alors à l'heure où on enregistre, donc le 20 juin, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes. Le premier fait 40 minutes et les autres tournent autour de 1 heure. Le plus grand fait 1h40. Et en fait, c'est avec l'équipe de
l'apéro du capitaine
qui parmi ses membres certains travaillent dans un cybercafé à Paris. Mmh. Et en fait, avec donc la patronne du cybercafé et les employés et les amis, ils viennent raconter des anecdotes qu'ils ont vues à côté, enfin dans le cybercafé.
Et pour ceux qui ont déjà travaillé dans un commerce, pourront voir vraiment beaucoup beaucoup de choses étranges.
Hein. Oh oui. Et c'est justement là qu'on se enfin tout ce qui est en fait en contact avec le public, pas forcément en commerce.
Ah oui, non, tout à fait, oui.
On reconnaît, il commence à expliquer l'histoire. Alors, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, ça me l'a fait. Je revois des gens que j'ai croisés. Je me dis, mais c'est elle?
Peut-être qu'on parle de la même personne.
Ouais. Et, c'est super intéressant.
Ça rigole. Peut-être qu'elle fait la même chose partout.
Je ne crois pas, parce qu'ils sont du côté de Gare de Lyon, je crois.
Ouais.
Alors peut-être que c'est une personne qui a décidé de voyager dans tous les commerces d'Europe et de faire chier les gens avec les mêmes questions, les mêmes comportements.
Non, je ne crois pas, parce
c'est
que
sa passion.
Là où j'habite, tu viens pas par hasard. C'est pas un coin touristique, tu vois.
Ah, OK, faut connaître, quoi.
Bah, là, on peut le mériter.
Ok.
Ou, enfin bon, c'est voilà, y a pas grand-chose. Si on a une belle patinoire, c'est tout.
Et donc c'est bon. C'est bon, John, au niveau des...
Au niveau audio, ouais, je pense que...
Alors, vas-y, Deka, toi qui as une grande expérience, toi, maître...
Le maître, non, je vais... Alors, bon, j'ai déjà donné une avec scepticisme scientifique qui était pas prévu, et j'en aurai juste une deuxième ce soir, sinon j'en aurai quelques-unes, puisque, pour vous donner une idée, là, ma playlist de podcast, elle fait 33 heures... Donc,
Ah ouais, c'est... Ah ouais, quand même.
Ça. Voilà. Mais, voilà, je vais donner le petit dernier que j'ai ajouté à ma liste, parce que c'est un gros... C'est un petit clin d'œil, parce que j'ai échangé pas mal avec un des co-animateurs
La cabine bleue.
Non, même pas. Ça s'appelle « On lâche rien ».
Ah, ça parle de quoi, ça?
Alors, « On lâche rien », c'est... Alors, ils sont au premier épisode. Ça s'appelle Un suppôt et dodo. Et en fait, c'est un peu, okay. C'est un peu la même idée que on a. C'est que c'est quand tu disais tout à l'heure, Harry, c'est que bah tu t'attaches au personnage. Mm-hmm. Et ben là, c'est un peu la même chose parce qu'ils racontent un peu leurs problèmes que.
Enfin bon, fois, avec le titre Un suppôt et dodo, tu me fais peur.
Non mais. Oh là.
Et on est au plus profond de l'intimité.
Quand même.
Ah oui. Dans les abîmes du démon.
C'est pas l'oiseau.
Oh putain, les gars, vous êtes au top là.
C'est pas l'oiseau, s'il te plaît. On va pas parler d'un cerçon. On va pas parler d'un cerçon animal.
Oh là là là. C'est toi qui m'as lancé là.
Ah non. J'ai dit, on en parle pas. Donc non, en fait, ils parlent un peu de leur expérience, notamment bah là dans le premier épisode, c'est que certains ont des difficultés à dormir et ils expliquent un petit peu ce qu'ils utilisaient ou quoi, et ce qui m'a fait un peu rire, c'est qu'ils parlaient à un moment donné de tout ce qui est gadget sur les iPhones ou les bracelets connectés pour essayer de
calculer. J'ai entendu des gens qui ont eu très peur là.
Voilà, des cycles, tu sais, non mais les cycles de sommeil, les calculs tes cycles de sommeil, sommeil profond, sommeil léger, etc. Tu vois un peu le truc. Et donc c'était assez marrant. Et la deuxième partie, j'étais mort de rire parce qu'en fait là ils ont essayé de trouver un objet rétro geek culte. Et bah quand ils parlent de ça, je vais pas spoiler de quoi ils parlent. Mais je me suis retrouvé dans chaque recommandation qu'ils ont fait. Il y a juste un truc qu'ils ont pas parlé, et ils auraient dû en parler, c'est de la Game Boy. Mais le reste, voilà, c'est...
Non, mais
tous
ça,
les trucs qu'ils ont parlé, c'est l'objet...
Surtout la première Game Boy, on veut tous l'oublier, quoi. C'était affreux.
Comment?
Ah oui.
La grise?
Ah oui, la grise.
Alors, monsieur, là,
t'as déjà essayé sur la route de jouer avec une Game Boy?
Mais que vous y êtes si, monsieur.
Mais c'est que ça, et t'avais la prise pour la même cigare. Papa, ouais. Il n'y avait plus de batterie pour la voiture, mais tu pouvais quand même jouer à la Game Boy.
C'est-à-dire que t'étais arrêté parce que la voiture pouvait plus redémarrer,
si
mais toi,
loin...
Mais t'avais fini ta partie de Tetris.
Si tu partais loin, il te fallait une valise entière, rien qu'avec des piles triple A.
Ah ouais, non, ça c'était un problème.
Ah ouais.
Surtout qu'à l'époque, les piles rechargeables.
Ah là, ça n'existait pas. Ou ça coûtait super cher.
Bah, moi je me souviens que des bouffe-piles, quoi.
Ah ouais, non,
c'était...
Ah, mais pour moi, la Game Boy, c'est la console la plus mythique que j'ai eue, quoi. C'est...
Ah, oui. Non, mais disons que pour une console portable, tout ce qui était éclairage et tout...
Non, la Game Boy, non.
Ce qui se fait maintenant...
mais tu peux pas jouer dans le noir avec une Game Boy, ça, c'est pas possible. C'est...
Ni à la
donc,
lumière
les
non
enfants,
plus.
Les enfants, reprenons sur les robots.
Voilà, et voilà. J'ai bien aimé, et puis c'est tiens, un petit coup de pouce, parce que voilà, j'ai pas mal échangé avec eux. Ils sont super sympas, donc je voulais leur donner un petit coup de lumière sur ce podcast, et puis
mais après,
ne vous arrêtez pas aux suppos et dodo, le contenu est intéressant.
Ni au truc animal, et puis à l'objet pourtant.
Non, c'est l'insertion animale, c'est dans l'apéro du capitaine.
Et t'en as qu'un ou deux?
J'ai parlé de scepticisme, non mais j'avais déjà donné scepticisme scientifique et je voulais juste parler de on lâche rien, okay. Donc pour moi c'est terminé.
J'en avais dit deux max par thème.
Ah ouais, non, bah voilà, deux max, c'est bon. Voilà, donc...
Donc, à toi, notre cher invité.
Alors, c'est toujours un petit peu difficile de choisir, je vais quand même pas trop...
Deux que tu conseillerais pour ce que tu fais.
Un, l'apéro des papas manchots.
Deux, la cabine bleue.
Voilà.
Bon, je vais citer peut-être des... Allez, je vais je vais citer des un peu connus, mais qui sont un petit peu des indispensables dans le, voilà, dans leur sujet. Il y a le podcast ZQSD, qui parle de jeux vidéo, qui sont les numéro un sur les jeux vidéo, PC, et qui vraiment, c'est pas pour rien qu'ils sont un petit peu le top du top sur ce sujet-là, c'est que, bah, ils sont principalement constitués de journalistes sur le sujet. Mais en plus de ça, on parlait toujours des podcasts, finalement, on vient parce qu'ils ont leur truc à eux, ils partent dans des tirades pour parler de certains jeux vidéo. C'est assez passionnant. Ils ont des podcasts un peu longs. Ça arrive que c'est autour des 3 heures, 2h30, 3 heures. Du coup, oui, il y a de quoi faire. Ils ont régulièrement des invités qui sont des développeurs de jeux ou alors des gens qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo en général. Et alors, ils ont pas besoin de vraiment de coups de pouce parce que bah, ils roulent un peu
sur le top. Ouais.
Ouais, ils roulent un peu sur tout le monde. Et en plus, le que qu'ils aient, allez, peut-être une émission sur deux. Avant, c'était peut-être toutes les émissions. Ils ont tellement d'invités que finalement, la publicité se fait d'elle-même, quoi. Donc ça, je conseille à fond. C'est vraiment top. Alors, je vais revenir sur un sujet dont on a, enfin, un podcast dont on a parlé tantôt, mais vraiment parce que c'est un coup de cœur personnel depuis que je suis tombé dessus, c'est la fucking kermesse. Pour moi, dans leur créneau, c'est-à-dire une sorte de dissertation avec humour sur un sujet parfois un peu what the fuck, mais parfois souvent très précis, bah, ils sont au top du game, quoi. Ils sont extrêmement drôles, c'est extrêmement référencé. Ils ont pas de tabou, donc s'ils ont envie de faire des blagues très borderline, ben ils les feront. Et après ils disent bon bah tant pis. Ils ont même publié, je crois que c'était pour leur anniversaire.
Que moi je me fais censurer sur les blagues.
Ah oui, ça c'est quand même inadmissible.
Non, c'est la qualité de la blague, Morgan. C'est pas pareil.
Il y en a un pro de la blague vaseuse, c'est moi.
Voilà. Tu vois, chacun a son rôle. Moi, j'essaie de sortir des vannes pour transiter. John, c'est les blagues vaseuses. Toi, il faut que tu trouves ton thème. Tu vois, c'est... Tu peux faire la blague debout, tu peux faire les blagues border.
Non, c'est impossible.
Voilà. Il faut trouver sa thématique.
Et donc ben voilà, la fucking kermesse, ils ont d'ailleurs il y a pas longtemps, ils ont fait une campagne de financement participatif parce que ben ils sont retrouvés un petit peu ennuyés parce qu'ils n'avaient plus de matériel et tout ça.
Ils enregistrent de manière un peu particulière, je crois qu'ils enregistrent dans une salle de fête ou
en fait, ils enregistraient, c'était dans le Crous de Paris.
Ouais.
Qui était en fait alors nous le
Attends. La fucking kermesse, c'est pas un truc québécois, t'avais dit ?
Ah non, ça c'est autre chose.
D'actualité québécoise, je sais pas quoi.
Non, ça c'est les mystérieux étonnants, ça.
Ah.
La fucking kermesse, ils sont français. Et il faut vraiment leur chance. Alors, les premiers épisodes, c'est intéressant dès le départ, mais les premiers épisodes, la qualité du son est vraiment...
On connaît, t'inquiète pas.
On connaît un petit peu les problèmes de son ici. Donc on va pas être intolérant. Hein.
Mais ils ont vraiment progressé et nous pour la cabine bleue, la qualité du son, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler dès le départ. C'est aussi pour ça qu'on se voit en vrai. Ouais. Comme ça, moi, je fais en même temps que l'enregistrement, je fais.
C'est pour ça qu'on n'entendra pas l'hélicoptère qui passe au-dessus de ses
joues. Ça c'est chez moi. En fait, j'habite à côté d'un hôpital, donc là il y a une urgence. Et il y a quelqu'un qui se fait héliporter, donc c'est pas bon signe si on entend l'hélicoptère.
Ah ouais.
Ouais, c'est quelqu'un qui se fait héliporter, c'est pas cool. J'essaie de fermer la fenêtre quand même, mais c'est pas... Ah.
Tu peux, sinon tu leur jettes des pierres. Taisez-vous, on enregistre. Laissez-le mourir.
Je vais y aller au lance-pierre, je shoot au lance-pierre.
Ah mais dites-le, laissez-le mourir ou allez tout de suite l'emmener en ré... défibrillez-le sur l'héliport, on essaie vite de faire des bruits.
Oh. Ici, on enregistre, il y a quand même des choses plus importantes, quoi.
Ouais, exactement.
Donc, au bout d'un moment.
On parle d'insertion animale, s'il vous plaît, monsieur.
C'est quand même important.
Qui c'est qui a pas fait ça? Si, t'as pas fini tes recos,
Si, c'était sur les deux. Ouais. Donc, je répète, ZQSD et la fucking kermesse.
Exactement.
Donc, bon, tout le monde.
Explique Morgan.
Et explique moi, ok. Donc bah moi j'en ai deux, je sais pas trop, en fait j'arrive pas à être pareil, c'est un peu difficile à choisir, mais j'ai déjà parlé l'épisode précédent, voire deux épisodes même avant. Mon préféré c'est Studio 404.
Ah, oui.
Pour moi ils sont vraiment au top, genre là sur le dernier épisode quand j'enregistre, c'était avec les élections présidentielles, et donc les mecs ils sont réunis autour de table, ils se sont dit ok, on va jouer les rôles, on est tous des candidats à la présidentielle et je vais essayer de vous convaincre. Et le but du jeu, enfin, il faut être avec un public, et le but du jeu à la fin, donc ils font les présidents, enfin les candidats à l'élection, ils font un discours et à la fin de l'émission, il y a le public qui vote pour qui c'est qu'ils auraient élu comme président, élite comme président. Alors ils vont voter sur des sujets du numérique ou quoi, c'est toujours très orienté numérique.
Ouais.
Mais enfin voilà, c'est pour moi niveau qualité et tout, c'est les meilleurs du podcast, c'est les boss du podcast français.
Ouais, boss game. Ouais, ils ont fait un peu un combo incroyable, c'est-à-dire super écriture des sujets, ouais. Qualité de son exceptionnelle et ouais. En plus ils arrivent à t'intéresser sur des trucs où à la base tu sais pas que ça c'est super cool et en fait à la fin tu dis ok, je vais tester ce nouveau programme qui gère je sais pas moi par exemple tes onglets sur ton ordi et tout ça, c'est vraiment pas mal.
Je suis assez fan aussi et voilà, donc Studio 404 vraiment je recommande. Après un autre que j'écoute, bah c'est connu et tout, mais faut être développeur, c'est les cascodeurs ou les mecs qui parlent de les cast codeurs.
Allez, parce qu'il y a les caster codeurs aussi.
Ah non, là c'est les cast codeurs. Hein. Ah ouais. Caster, je connais pas. Cast, c'est parce qu'en fait en Java tu castes des classes.
Ah d'accord.
Alors caster okay. Codeur.
Ouais, non mais c'est peut-être un autre. Hein.
Ouais, tu confonds, c'est les cast codeurs. Hein.
D'accord. Ok.
Et voilà, et eux en fait ils parlent de beaucoup de Java, mais en gros ils parlent d'actu dev sur ce qui se passe dans le monde du dev. Donc moi vu que je suis développeur, ça m'intéresse. Donc voilà, s'il y a des développeurs parmi le public, je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Puis les mecs ils sont plutôt calés, tu vois, genre il y a les, si vous connaissez, enfin ceux qui connaissent un peu, il y a les mecs qui ont fait Hibernate, la librairie de référence au niveau de l'ORM. Et voilà, il y a quand même le développeur qui gère ORM dans le, qui est français, donc qui gère ORM dedans. Et ils interviewent pas mal de gens. Enfin voilà, c'est sympa.
Ouais, mais non, tu vends pas du rêve de dire qu'il y a l'administrateur réseau de Jacques et Michel.
Pardon.
J'aurais vendu du rêve là. Attends.
Mais attends, c'est.
Je pense
que. Ce que tu dis, c'est factuel. Enfin, c'est un fait ou c'est juste une blague?
Non. Mais tu vois.
C'est sa pensée personnelle.
Ah, voilà, quand même. Moi, ORM, tu vois, je connais pas. Tu m'aurais dit, tiens, il y a l'administrateur réseau de Jacques et Michel. T'aurais dit, tiens, c'est plus intéressant, tu vois.
Alors, comme les fenêtres sont ouvertes, je vais pas répéter le nom du site, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ce site-là. Ouais. Et
non,
sont peut-être pas supporter de foot pour avoir déjà
enfants.
Vu ça sur les maillots du Luxembourg.
Voilà.
Ah
oui,
sérieux?
Ouais, ils ont été sponsors d'une équipe de foot, ouais. Ouais. Mais bon.
Oh mon Michel Dieu.
N'est pas un site pour les enfants. Et
le sport pour le
moi,
sport.
Et autant pour moi, Morgane, t'as raison, c'est bien les cast codeurs.
Ok. On va passer au, je te vole ton rôle, Deka. Alors, transition sans transition. Après pas avoir parlé audio, nous allons parler télévisuel. Et si nous parlions série télé? Donc je me propose de commencer puisque j'ai été le dernier et ensuite ce sera donc le rôle de notre autour de Aristote, de Deka et de John. Alors on va faire par ordre décroissant comme ça. Donc moi je voulais juste vous présenter deux séries télé qui m'ont marqué pour cette année. Donc je vais pas vous présenter des classiques comme d'autres vont présenter, spoil alert. Donc American Gods, c'est une série Amazon. J'avais vu la pub en fait sur YouTube et je vous jure que c'est trop bien. En fait, le truc c'est issu d'un roman, donc un peu comme à Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux ou quoi. L'univers est ultra riche. Et en fait, ils reprennent toutes les croyances humaines. Ça peut être des dieux égyptiens, des dieux hébreux, des dieux cathos. Enfin, tout ce qui a pu exister en termes de croyances sont en fait des dieux et ils se livrent la guerre pour savoir en qui tu vas avoir le plus de croyances. Et donc dans notre actuel. Et je vous jure, c'est vraiment vraiment sympa et l'univers est génial et c'est très 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 bien réalisé. Franchement, je vous le conseille. Et c'est mon gros coup de cœur 2017. Pardon.
Ah ouais, bah écoute, je connaissais pas du tout ça.
Ouais, c'est basé sur un roman de Neil Gaiman en fait.
C'est tout à fait.
Et je pensais que c'était basé sur le site qu'a nommé Monsieur Dunkleverde juste avant. C'est pour ça que j'ai éclaté de rire.
Faut pas confondre God et Good. Ah God. Bon, la deuxième, ça s'appelle. Vous retrouverez les notes dans les liens de l'émission si John il fait bien son travail. Ça s'appelle The Handmaid's Tale. Donc, je traduis genre en français, c'est genre les femmes au foyer, les merde, comment on dit, les servantes, le conte des servantes. Enfin, ouais. En fait, foyer, c'est ouais. Ça se passe. ça se passe un peu. L'univers, il est dans une Amérique où en fait il y a des extrémistes, un groupe de fanatiques qui a pris le bar. Et les femmes, elles peuvent plus avoir d'enfants. Et le peu de fertiles qui restent, elles sont embrigadées dans un espèce de truc religieux où en gros elles sont forcées, enfin on les emmène dans des familles et puis bah limite on les viole pas, mais limite on les force à avoir des rapports sexuels parce que c'est les seuls à pouvoir procréer. Et c'est pas fini, on en a la première saison, c'est pas fini de tourner et c'est vraiment vraiment sympa aussi. Donc je répète, les deux gros coups de cœur, American Gods, série Amazon, et The Handmaid's Tale.
Ah, c'est marrant là, l'autre série, ça me branche là comme le speech, ça me branche pas.
Voilà, ah ouais. C'est un peu pourtant, c'est pas glauque, mais il est intéressant, l'univers.
Non,
c'est intéressant.
Faut le comprendre, il est proche de la Belgique et puis ça lui fait penser à un certain personnage qui a été arrêté nombreuses fois.
Non, c'est parce
pour
que
tentative de secte.
Non, c'est parce
je me rappelle plus de ce bonhomme-là, mais
non, mais on a une réputation d'inceste dans le Nord, donc tu sais, c'est un peu dans l'idée. Bon, c'est pas original, on va dire. C'est un petit peu
Ah, ça y est, je me souviens. C'est parce que ça te fait penser un petit peu à Raël.
Ouais, même pas. Non, c'était plus le côté inceste, tu vois, qu'on est un peu habitué dans le Nord. Comme dirait Morgane, mon père c'est ma mère, mon père c'est mon frère, ma sœur c'est sa tante, tu vois.
Donc, Aristote, je te laisse. Est-ce que tu as des films à recommander?
Écoute.
Série.
Je pourrais dire Doctor Who, mais c'est un peu facile, du coup, je vais dire autre chose. Il y a une très bonne série, si je dis pas de bêtises, la quatrième saison vient de s'achever, qui s'appelle Line of Duty, qui en fait est une série anglaise, encore une fois, qui s'intéresse en fait à la police des polices en Angleterre. Et en fait, à chaque saison, c'est des saisons assez courtes, c'est genre plus ou moins 5 épisodes, je crois. À chaque saison, ils vont s'intéresser à enquêter sur une affaire un peu bizarre qui touche un policier et quelque chose qui aurait été un petit peu illégal pendant l'exercice de ses fonctions. Et c'est vraiment une série, c'est un thriller vraiment super bien mené. Ils font le truc, t'es vraiment sur le bord de ta chaise tout le temps. Et le gros moment vraiment intéressant de la série, c'est quand il y a les interviews des suspects, où là vraiment ils te retournent des trucs en sortant des preuves qu'on n'a pas encore vues avant et qui font totalement sens. C'est vraiment très bien écrit, donc je vous conseille. Faut aimer un peu les trucs policiers, mais ça ressemble pas aux autres trucs policiers, c'est vraiment autre chose. Donc voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme deuxième série? Puisque dans Line of Duty,
il y en a pas dans Torchwood, non? J'ai l'impression.
Là comme ça, ça me dit rien. Il faudrait que je revoie parce que j'irai checker un petit peu la liste des acteurs. Ah, ça c'est bien possible. Et puisqu'il faut en parler, et parce que c'est le retour de Twin Peaks cette année, pour ceux qui n'ont jamais tenté l'aventure Twin Peaks, je pense que c'est l'un des moments, encore en création fiction, c'est un des moments les plus importants de la télévision. Encore maintenant, ça tient la route, en tout cas la première saison à coup sûr. C'est très particulier, ça vous mettra dans une ambiance... bien particulière.
T'es un peu un weirdo, toi, un peu au niveau des séries, non?
Ah ouais, j'aime bien les trucs un peu qui sortent de, ouais, qui sortent des trucs habituels.
Quand je t'entends parler, ça donne l'impression.
Mais du David, c'est pas forcément facile à d'approche, hein, quand vous voyez ces films comme Mulholland Drive ou quoi, donc la série, c'est un peu dans la même idée, non?
Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès. Mais je trouve que c'est peut-être la chose qu'il a faite la plus accessible, en fait. Bon, ça et oui, parce que c'est l'adaptation du roman, quoi, mais je pense que ça doit être ces deux projets les plus accessibles. Mais Twin Peaks, vraiment, si vous avez jamais tenté, c'est-à-dire que oui, c'est début des années 90,
mais ça tient la route.
Ouais, ça tient très bien la route. Il y a quelques longueurs au début, mais en fait, qui qui petit à petit participent à une certaine ambiance et à mettre dans un certain mood quand on regarde la série. Donc voilà.
D'accord. Bah écoute, je vais essayer de m'y mettre. Tiens, finalement, tu vois, ça.
Mais faut s'accrocher au début vraiment. Le premier épisode est un peu long. Mais moi, à la fin du premier épisode, j'ai pas pu attendre, j'ai lancé le deuxième directement.
D'accord. Bah écoute, je vais enchaîner parce que non, c'était John.
Est-ce que vous connaissez le principe de binge watching?
Ouais.
Oui. Mais
ok.
Ouais, non, c'est bah avec Netflix tu peux le faire. On va dire qu'avec Netflix tu peux le faire, mais avec Doctor Who tu peux pas le faire en ce moment parce que c'est un épisode par semaine.
Ouais. Mais maintenant, je trouve que toutes les séries ne se prêtent pas au binge watching.
Ouais, justement, c'est ce qu'il disait.
Pour revenir à Doctor Who, c'est pas fort. Et puis même Doctor Who, c'est pas forcément le cas.
Mais les épisodes sont trop décousus les uns des autres pour pouvoir être binge watché.
Moi, c'est parce que ça me passionne, du coup, je le fais. Mais tu vois, des séries comme Black Mirror, des fois, il faut faire une petite pause entre deux, tu vois, parce que ça te met tellement dans, ça te retourne tellement la tête que des fois, t'as juste besoin de.
Ça peut te retourner pendant une semaine, ce truc-là. Hein. Putain, tu réfléchis sur ton comportement.
Bah ouais, t'as envie de voir les gens que t'aimes et tout. t'as vraiment besoin de souffler un peu avant un second épisode.
C'est le genre de série qu'il faut pas regarder la nuit, sinon t'appelles tout le monde pour savoir si ça va bien, etc.
le lendemain, tu chiales au boulot. Tu dis, mais putain, vous m'avez manqué.
Oh, patron, tu m'as manqué. Ok.
Avec Aristote, je crois qu'il faut lui faire souffler dans le ballon, il va nous faire une couleur qui est même pas dans le guide.
Là, on triche, on dit plus de séries que ce qu'il y en a vraiment.
Ouais,
on a ce qu'on a le droit d'en dire.
Ouais. Et t'avais dit qui dans l'ordre, c'était moi ou c'était
L'ordre inverse, donc après c'est toi, Deka.
D'accord. Je vais parler d'un classique, puisque maintenant c'est devenu un classique de chez classique. Mais pour moi, ça a été une des séries, je pense, qui a été écrite tout de suite pour faire 62 épisodes. Pas plus, pas moins. Et c'est pas une série où tu vas te dire, bah, tiens, la saison 1 elle est bien, la 2 elle est moyenne, la 3 elle remonte le niveau, la 4 elle est pourrie, la 5 elle est... Non, là ça reste vraiment linéaire et où le personnage principal passe du comique à la première saison à une pourriture sans nom et finalement, bon je vais pas dire ce qui se passe vraiment mais on sait déjà dès le départ comment ça va finir. Mais tu te dis bah finalement c'est... Malgré le fait que tu savais que ça allait finir comme ça, il y a quelques petits trucs à la fin que tu te dis waouh. Les mecs, ils ont super bien écrit la série, c'est léché, il y a des plans qui sont super classe, il y a un casting qui est, dans les rôles masculins qui est...
J'en peux plus, dis-moi le nom! Dis-moi, qu'est-ce que c'est?
Attends, il t'a même pas parlé de la belle caravane.
Ouais, aussi, il y a un camping-car magnifique, qui est un des personnages principaux d'ailleurs, de la série. Je veux parler de Breaking Bad. Voilà, Breaking Bad avec l'excellent Bryan Cranston qu'on a vu. Bah, quand tu vois passer de Malcolm à ça, tu te dis
ah, ouais, c'est vrai que ça a été la révélation. J'ai juste une chose à dire sur cette série.
Oui. Ça t'a donné envie d'aller en biologie.
Bah, tu sais que j'ai un pote, il est là-dedans et enfin bref. Bon. Non, ce que je veux dire c'est de toutes les saisons confondues, il y a une scène, elle doit être saison 1 ou saison 2 ou saison 3, au début,
ouais.
Je m'en rappelle plus très bien, mais elle m'a choqué. C'est le mec, donc bon, on le dit pas, il apprend, donc Bryan Cranston, ouais. Il apprend à sa famille qu'il a le cancer. Ouais. Et en fait, tu regardes la caméra, c'est une caméra fixe qui zoome petit à petit. La scène, elle doit durer 2 minutes. Le mec, il a dû rire où il rigolait avec sa famille, ou au moment où il leur apprend qu'il a le cancer, avec les larmes aux yeux et tout. Et donc, en un plan fixe où ça zoome petit à petit, donc tu peux pas tricher, c'est vraiment là un vrai jeu d'acteur.
Ouais.
Le mec, pendant 2 minutes, il est passé du rire aux pleurs, aux yeux rouges, aux larmes et tout qui coulent.
Ouais.
Et là, tu dis, waouh, cette scène, je te jure, elle m'a ému aux tripes. Et de toute la série, c'est la scène que je retiens le plus.
Ah, puis même.
Et là, tu vois que c'est un.
Même le fait, comme je te dis, qui passe. Et c'est vrai que là, mais même l'écriture du personnage tout au long de la série. Ou bah justement comme tu dis, c'est bon le pitch est assez simple dans Breaking Bad, c'est bah Bryan Cranston qui est prof de chimie qui a une vie un peu ratée parce qu'il se rend compte que bah il y a un de ses amis avec qui il avait monté une boîte et il a revendu ses parts pour payer un emprunt étudiant et finalement bah il se rend compte que cette boîte maintenant le gars il est millionnaire et lui bah il est prof de chimie dans un lycée minable et il est bon lui dit en gros bah du jour au lendemain il apprend que à force d'avoir manipulé des produits chimiques il s'est chopé un cancer des poumons et qu'il va lui rester genre entre 12 et 18 mois à vivre et il lui prend l'idée de créer une drogue de synthèse parce que son beau-frère qui est à la brigade des stupes un jour il fait une descente et avec Bryan Cranston et il se rend compte qu'il y a un de ses anciens élèves qui deal de la méthamphétamine et il va le rencontrer et puis il voit que le produit n'est pas de super qualité et il se rend compte que lui en tant que chimiste il pourrait faire un produit de meilleure qualité. Et bon, de là, il va se passer une série d'événements jusqu'à, bon, on se doute que l'issue, elle sait ce qu'elle est.
Il n'y a pas de surprise.
Il n'y a pas de surprise. Mais malgré tout,
il y a quand même
des surprises.
C'est
tellement bien écrit qu'à la fin, il reste des petites surprises, quoi.
Et, mais la fin est magistrale.
Et magistrale, il finit, mais avec une classe. Voilà, quoi, c'est... Et il y a une galerie de personnages dedans, mais tous les rôles, celui qui va jouer un de ses chefs après, là, qui joue dans plein de séries d'ailleurs, et ce gars-là, qui tient la chaîne de fast-food, là.
Los Pollos
Hermanos, là. Ce gars-là, mais comment je...
Gus.
Celui qui joue Gus dans la série. Mais il est trop classe, ce gars-là. Ah ouais, non, mais... Voilà.
Mais juste des quatre, t'as juste 5, 6 ans, 7 ans de retard sur la série.
Ouais, et alors, elle a le droit d'être bonne. Elle a le droit d'être bonne. Hein.
Ouais, mais 7 ans après, il y a la péremption, tu vois.
Ouais. Écoute, j'ai parlé d'une série de 1991, 91, pardon.
Voilà, tu vois, c'est encore plus vieux Twin Peaks, donc tu vois.
Non, il parlait de Doctor Who.
Doctor Who, c'est 1963.
Donc, ouais, donc c'est pire encore.
C'est encore pire, donc tu vois, malgré tout.
Mais comme il voyage dans le temps, ça va.
Qui s'appelle Dead Like Me, mais je vais pas trop. C'est une bonne série, mais le problème c'est qu'elle est restée inachevée, donc voilà. Si vous voulez la regarder, c'est assez sympa. C'est une histoire de, ça raconte les gens qui accompagnent les morts et le sujet est assez sympa parce que ils sont sur Terre sans être reconnus par les gens de leur propre famille, donc ils essaient de se faire reconnaître. C'est assez marrant. Bon, bref. Dead Like Me, si vous voulez vous savoir. Juste l'héroïne principale, elle meurt parce qu'elle a été touchée par les toilettes de la station Mir.
Ah d'accord.
Je me rappelle du premier épisode, c'est vrai que c'était un
peu... Ouais. Mais après, ce qui est dommage, c'est que ça se termine au bout de la saison 2 sans vraiment... Voilà. Quoi.
C'est une fin de budget, c'est pas une fin de
c'est
série.
Une... Non, c'est une série qui a été arrêtée dès qu'on...
Oui, voilà. Bah, c'est ce que je dis, c'est une fin de budget, quoi.
Il y a un téléfilm, par contre, qui finit la série.
Ah.
Ah, bah comme ils avaient fait avec Firefly. Vous avez fait un film pour terminer le truc.
Ouais, bah là c'est pareil. D'ailleurs, faut que j'essaye de le voir. Voilà. Donc, à John.
Alors, pour rester dans l'esprit, on va dire BD, je vais parler de Gotham. Mm-hmm. Donc.
C'est la série Batman, ça, non?
Voilà, mais c'est la série Bruce Wayne. C'est avant qu'il devienne Batman.
Bruce Wayne, c'est pas son majordome,
ça? Non. C'est, comment? T'as dit quoi, Deka?
C'est une série animée?
Non, c'est une série, série, c'est pas un dessin animé. Et c'est clairement pas pour les enfants.
Ah ouais?
Voilà. Alors, en fait, c'est simple, c'est on voit le meurtre de Martha et, enfin, on voit le meurtre des parents de Bruce.
Ouais.
Avec lui. Et en fait, on se concentre sur comment il devient Batman, tout en étant l'acteur principal. Enfin, c'est plus un duo, on va dire, parce qu'on voit autant Bruce que Gordon, qui est par rapport au Batman, j'ai envie de dire les plus anciens ou dans les BD, qui est le commissaire. Là, on le voit en tant que simple inspecteur.
D'accord.
Et en fait, on voit toute l'évolution. On voit le Joker avant qu'il devienne le Joker. On voit Gordon qui l'arrête une première fois. On voit Enigma qui travaille dans le commissariat. Donc l'homme mystère. Mister Freeze. Non, j'ai pas soif. Hein. Voilà, je m'y attendais, donc je la lance. Il y a Mister Freeze, il y a comment ça s'appelle?
Harley Quinn.
Je me rappelle plus comment elle s'appelle avec les plantes. Poison Ivy.
Il y a déjà tous ces personnages-là.
Voilà, on voit le.
Poison Ivy.
Ouais. Et en fait, on les voit comment ils se transforment en mutants, enfin en mutants, en super vilains. Chacun avec l'histoire. On voit le que ils sont tous rassemblés. Enfin, sans trop spoiler. D'ailleurs, c'est à la troisième saison là. Il y en a deux disponibles en français. La troisième étant en cours, là. On voit qu'ils sont tous, même dans leur enfance, enfin, pour certains et d'autres, ils sont déjà en adolescence. On voit qu'ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, reliés à Bruce Wayne. Et non à Batman. Et, bien sûr, la plus belle. Catwoman. L'actrice. la jeune fille.
Ouais.
Qui fait Catwoman dans c'est impressionnant quoi. Limite dans le je sais pas après je connais pas très bien le cinéma pour décrire les plans mais je sais pas le jeu d'acteur qu'elle a tu vois le chat en elle quoi.
Ah ouais.
C'est ouais c'est vraiment impressionnant. Hein. Et on voit donc on le voit comment dire, bah depuis le début, au petit garçon, au petit fils riche, peureux et très comment dire, enfin réservé, tu vois, très timide, à sa, à la personnalité qu'on connaît de Batman. Après, selon les films et les BD et les comics, ça change un peu, mais enfin, selon les arcs narratifs, on le voit de assez méchant, mais on le voit le devenir fort et le côté qu'il a surtout de j'ai trois coups d'avance sur toi, quoi.
D'accord.
Et franchement, c'est les acteurs, ils sont géniaux. En plus du coup, on les a vus grandir. Celui qui joue Batman. Bruce Wayne, du coup, il a pris au moins 5 têtes, je crois, de taille entre la première saison qui a été commencée en, et la deuxième, la troisième. D'ailleurs, ils sont en train de tourner la quatrième, si j'ai bien compris. Les troisièmes sont en cours de diffusion. La troisième est en cours de diffusion. Pour les Français, ça passe sur NT1, je crois.
La NT1 saison 2.
Ouais, NT1 ou TMC, hein. Enfin, c'est les chaînes
de TF1.
Voilà, du groupe de TF1. Donc ça, franchement, c'est... Et même ceux qui ne connaissent pas l'univers de Batman ou qui n'apprécient pas, là, le fait qu'il n'y ait pas tout de suite... en tout cas, dans la première saison, on ne voit pas tout de suite le côté... comment dire fantastique, enfin on voit pas
homosexuel.
Non, si il y en a quand même, mais c'est pas justement, c'est ça aussi qui fait sa force, c'est la diversité de comment dire, du comportement humain en fait. Dans tous les sens du terme quoi. On voit le pingouin et lui il y a que le pingouin en fait parce que je suis resté sur l'ancien film de Batman. Où il y a le avec le pingouin là de 91 qui était sorti je crois.
C'était Danny DeVito qui jouait.
Oui, c'est un Italien qui jouait le rôle et je suis resté avec son visage en tête en fait. Chose à ne pas faire.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, et en fait ça fait au début ça commence comme une série policière classique quoi. On va dire. À la base, bon bah c'est qui a tué voilà, c'est on voit Gordon qui cherche à qui va sur le meurtre de des parents de Bruce Wayne donc et qui bon bah il se rend compte qu'il y a de la corruption que voilà et puis il voit le petit avec son majordome qui est revenu le chercher voilà, qui le tient. Il voit la, on va dire la petite chose, tu vois, et puis il lui promet de trouver le meurtrier et qu'il ne restera pas impuni, etc. Et en fait, selon les épisodes, ça va se concentrer soit sur Bruce, soit sur Catwoman, soit sur Gordon, Enigma. Enfin,
bon, c'est très l'univers, quoi.
Voilà, mais ouais, toujours en restant dans le côté policier, et c'est amené au fur et à mesure les côtés fantastiques. Chaque personnage commence à avoir sa, on va dire, sa mutation, mais de manière très, enfin, c'est bien écrit, quoi.
Juste, c'est une série genre Netflix, c'est une série rien à voir, HBO ou
HBO, je crois.
HBO.
Non, je, ou c'est bêtise, c'est pas CW ou un truc comme ça.
Ah, je sais pas du tout.
Ah, je vais vérifier.
Je sais, je crois que c'est, ou peut-être HBC.
HBO.
HBO, ouais. Ouais,
ou non, c'est HBO, c'est... j'ai confiance.
Mais... Ah, mais c'est, attends, c'est quoi ça? Parce qu'ils disent que c'est sur le réseau Fox, mais c'est pas sur la chaîne Fox.
Non, coup, c'est, bah, je crois que c'est sur la même qui diffuse Walking Dead, mais je ne suis pas sûr.
Ah, AMC, du coup, peut-être.
Je sais pas, mais franchement, la série, tu regardes le premier épisode, tu, voilà, si t'aimes, si on aime bien les trucs assez pissés, c'est une claque. Et,
Mais t'es pas la première personne à me la conseiller, donc,
Non, franchement, le,
après,
les
moi,
acteurs.
Je suis toujours, les trucs de super-héros, j'ai toujours grave du mal. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très rare les trucs de super-héros qui me plaisent, mais t'es pas la première personne à me dire non, ça a rien à voir avec les trucs de super-héros.
Justement, tu vois, je prends, je sais pas quelle série, enfin, le fait que, en fait, ça commence par Bruce Wayne, tout seul, voilà, il se fait tuer, c'est pas, et il y a pas de super-héros, ils sont descendre de voilà, une balle chacun, voilà. Comme l'histoire qu'on connaît tous pour enfin pour ceux qui connaissent donc ils se font voler sous prétexte de l'argent en sortant d'un théâtre ou d'un cinéma, je me rappelle plus. Enfin bref. Et voilà, et on voit tous les personnages avant qu'ils viennent super vilains. Bon, il y en a qui sont déjà vilains, mais ils ont pas le côté mutant ou le côté enfin le côté anormal, quoi. C'est des méchants comme les autres. Voilà.
D'accord.
Et au fur et à mesure, on se rend compte de, voilà, société secrète, etc. Et une fois que t'as commencé à regarder les premiers épisodes, c'est fini.
T'accroches.
Ah, c'est, voilà. Et, deuxième. Ouais. Ah, à moins que tu voulais poser une question dessus.
Non, justement, je voulais te faire enchaîner.
Parce que là, on traîne.
Et la deuxième, alors, j'hésite. Bon, je vais dire c'est une que j'ai commencé à regarder, c'est Iron Fist, donc toujours
Iron Fist.
Fist, ouais, je pense, mais parce qu'en fait, je voulais pas le dire pour éviter une blague vaseuse, mais j'ai oublié que c'est moi qui l'ai fait, donc c'était bon. Et ça c'est dispo chez Netflix. Il y a la première saison. Donc c'est Point d'acier. Et voilà, c'est l'acteur est, il me fait penser à, je ne sais pas si c'est le même qui a joué dans la série là, Dexter. Je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas il me fait penser un peu. C'est un blond bouclé. Pareil. Là j'ai regardé les 7 premiers, je crois.
Je suis assez d'accord. Les premiers sont assez. Enfin moi j'ai pas encore fini la série. J'ai dû regarder les 4-5 premiers. C'est assez ouf au niveau de l'ambiance parce que c'est un truc de super-héros, mais pas vraiment, les pouvoirs c'est un petit peu, et il y a une grosse intrigue autour, tu sens qu'il y a une histoire qui se met, mais alors les critiques ils disent que c'est la pire série de jamais vue, quoi.
Bah en fait faut pas
des Marvel, donc
c'est ça, faut pas se baser sur la BD,
moi je me dis que ceux qu'on fait la critique c'est genre les fans de trucs de super-héros, et vu que je déteste les trucs de super-héros ça passe,
mais en fait c'est ça, c'est que si tu le prends, c'est comme on parlait hier avec Aristote aussi lors du test de par exemple le Seigneur des Anneaux. Tu prends le Seigneur des Anneaux. Quelqu'un qui n'a jamais lu les livres,
il va kiffer. Ouais.
Quelqu'un qui a lu les livres avant de regarder les films, il va aimer, mais voilà, il va dire bon, ou alors il va pas aimer du tout. Mais ça va être très varié. Et là avec que ça soit Iron Fist. Arrête, oh là là, je sais Iron pas pourquoi. Donc le premier d'acier, hein. Voilà. Le premier d'acier est Gotham.
Ouais.
Bah, je trouve que voilà, c'est faut pas partir sur la BD. Enfin, faut pas s'attendre à que ça suive l'arc narratif.
C'est du spin-off, hein. Pas du spin-off, mais du.
Ouais, c'est une adaptation. Voilà.
Ouais, une nouvelle interprétation. Du...
C'est une nouvelle. Voilà, faut voir ça comme une nouvelle interprétation. Et voilà. Et après, bon, pour Iron Fist. Ouais, je l'ai dit, c'est possible. Et je sais pas s'il y a eu des films à part.
Non, ça.
Je sais qu'il y a une série. Je sais qu'il y a une série. Il y a un Spider-Man où il est dedans.
Bah dans Ultimate Spider-Man.
Ultimate Spider-Man.
Sur Disney XD, je crois.
Et ça passe aussi sur France 4.
Ah, ok.
Et bah voilà, franchement, c'est super. Les scènes de combat, moi qui aime beaucoup les arts martiaux.
Ouais, ça passe.
Je trouve.
Ouais.
C'est vraiment c'est bien fait, que c'est pas du. Du Chuck Norris, quoi.
Ouais. Enfin, okay, donc... Okay.
Et donc, voilà. C'est dispo sur Netflix, en français.
Alors, par contre, on va enchaîner que sur... On va faire une dernière recommandation. De
non, alors, moi, je vous proposais, c'est on zappe les films et je vous recommande mes livres.
Ah, ouais.
Bah, moi, j'ai pas de livre. Non, moi, j'aurais pas de livre. Voilà. Donc, après...
Moi, j'ai une BD, voire deux.
Et toi, Harry, est-ce que t'as des recommandations?
Niveau bouquin, ça va être encore sur Twin Peaks, c'est parce que je lis un bouquin sur Twin Peaks pour le moment. Je joue plus aux jeux vidéo que je ne lis pour le moment.
D'accord.
Bon, alors, comme ça, on va faire livre.
Ceux qui ont pas de livre, ils font un film. Comme ça, au moins.
Voilà. On fait ça. Alors.
Vas-y, tu laisses commencer
sur ton livre. Niveau livre, j'ai Martyr d'Olivier Perru, donc c'est un écrivain français. Alors Martyr, c'est un truc en 3 tomes, il y a que les 2 premiers qui sont sortis et le 3e doit sortir cette année. Et c'est vraiment 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 pas mal. Genre ça c'est médiéval, c'est fantastique ou fantasy, je sais pas trop la diff, mais en gros, il y a le fantastique, la fantasy, ça a un tout petit aspect dans le premier tome. Et voilà, en fait, ça joue très peu. C'est genre les gens, ils peuvent voir des fantômes et voilà. Et il y a vite fait, tu sais que il y a des gens qui sont héritiers des dragons, mais autrement, c'est que des gens normaux. Et en fait, la particularité du livre, c'est si tu lis le dernier chapitre, si tu lis genre les dernières pages avant de commencer le livre, et bah tu as toute ton histoire qui est fuckée, donc faut s'attendre à un gros twist à la fin. Et donc c'est en 3 tomes et c'est pareil, à chaque fois sur les 3 tomes, tu arrives à la fin, t'es what, putain, je veux lire la suite. Et là je suis arrivé au 2e, j'ai fait je veux lire la suite, et le 3 il est toujours pas sorti. Voilà, donc vraiment je veux Martyr d'Olivier Perru est vraiment vraiment bien, ça a été mon gros coup de cœur. Pour vous dire, c'est 3 tomes, enfin 2 tomes de 600-700 pages, quelque chose entre 5 et 700 pages. Je les ai torchés en moins d'un mois, les 2 tomes. Sachant que moi, normalement, je mets 3 mois à lire un livre. C'est pour dire à quel point j'ai accroché. Ah ouais. C'est vraiment énorme. Deuxième truc, c'est Les Pitées de la Terre de Ken Follett. Alors, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un livre. Ça parle d'un mec dans un village anglais, enfin voilà, qui part et qui veut son rêve, c'est de construire une cathédrale. Donc, ça parle d'architecture. Et c'est vraiment pas mal. On apprend beaucoup sur l'architecture. Après avoir lu ce livre, à chaque fois que je vois une cathédrale, une église ou quoi... Je vous jure que j'ai un œil différent sur la façon de regarder l'église. Genre, je vois beaucoup plus justement l'architecture de l'église ou quoi. Donc, il est vraiment pas mal. Il est très intéressant. C'est sur fond d'intrigue un peu avec de conflits entre l'église et les commerçants, parce que à l'époque l'église avait un pouvoir et ils en abusaient. Enfin voilà. Et c'est vraiment pas mal. Et il faut savoir qu'il y a un jeu Linux qui va être disponible à Day+1 pour Linux, qui est une adaptation des Piliers de la Terre. Qui va sortir là très bientôt. Donc voilà, j'en profitais aussi pour faire la pub.
D'accord. Est-ce que voilà, ça va être Civilization 6?
J'en sais rien du tout. Mais Civilization est très bien.
Mais tu m'as donné envie de le lire. Hein. Je pense que...
D'accord.
Donc c'est ceux qui ont... toi, t'as une BD, John.
Ouais. Ah, c'est à moi tout de suite, je renchaîne direct.
Enchaîne ton BD, comme ça on va être dans la thématique des livres.
Alors, Bah, c'est simple. C'est une petite BD. Il y a 4 tomes, histoire finie. Donc, c'est très court, hein. On est loin des Tintins ou des Astérix. C'est masqué. Alors, pourquoi celle-là? Elle est sortie en... Le dernier tome, il est sorti en printemps 2013. Mais, c'est du super-héros français.
Ouais. Oh.
Alors, le pitch, c'est... c'est un sergent, donc Franck.
Ouais.
Il revient à Paris, 6 ans, après 6 ans d'absence, parce qu'il a été blessé dans une mission dans le Caucase. Ça se passe dans le futur, mais c'est un futur, comment dire, bien imagé. La refonte de Paris, et il y a ce qu'ils appellent des anomalies qui se créent.
Ouais.
Lui étant sur le front, il n'en savait rien. Il rentre donc sur Paris. Et il rencontre, on l'invite à voir je sais plus comment il s'appelle, c'est le préfet,
ouais.
Beauregard, pour ouais. Paris Métropole, parce que ça ne s'appelle plus Paris, c'est Paris Métropole. Et on le voit, ouais. Le rencontrer, et sans trop spoiler, le fait de devenir un super-héros. Ouais. Il subit, on va dire, une mutation. Pour cet épisode, j'aurai ce mot-là, mutation. Et on le voit donc muter vers cet être. Voilà, magique. C'est en 4 tomes. Et les dessins, ils sont magnifiques. Et puis c'est un héros français, bordel de merde. Il y en a marre des Américains. Hein? Pourquoi il y a que les super-héros aux États-Unis? Hein? Et des vilains russes?
Ouais. Et pourquoi il n'y a pas de super-héros belges?
Si, il y en a un.
Ah bon, super héros belge.
Ah bon?
Petrus. Non? C'est le super héros des âmes asséchées.
Elles n'ont plus de bière. Elles n'ont plus de bière, elles sont asséchées, alors ils appellent les Belges.
Et donc, c'est écrit par Léman Créti. Et c'est aux éditions Delcourt, donc 4 tomes, en nombre de pages, parce que c'est bien beau de dire 4 tomes, mais c'est 40, allez, on va dire une cinquantaine de pages, sachant que dans le premier tome, il y a la fin d'un arc, et il y a comme une page web sur les dernières pages qui explique un peu ce qui se passe sur Paris, voilà, avec des beaux croquis style storyboard. C'est vraiment c'est super, c'est une belle BD pour adultes, quoi.
D'accord. Bon,
alors je voulais juste prendre la parole. Alors deux choses, juste je vais devoir y aller parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire, faut pas que je me couche trop tard parce que demain il y a la fête de la musique.
Ouais.
Donc je suis désolé, je vais vous quitter tout de suite après que j'ai parlé.
Ouais.
Et deuxième chose, les gars, tu devais pas nous annoncer pour cet épisode notre indépendance vis-à-vis de du site et tout ça?
Bah, malheureusement,
ça fait partie des geekeries.
Ça fera partie des geekeries, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc là il y a d'autres gros problèmes techniques qui sont arrivés, donc pour l'instant on n'est pas.
Ok, d'accord. Donc pas de grosses annonces.
Pas de grosses annonces pour l'instant, mais qui seront, je l'espère, et un jour valables. Mais pour l'instant non, il y a d'autres problèmes. Quand je t'ai dit tout à l'heure, il y a 3 PC. 2 PC.
Ah oui, effectivement, t'es sur ton PC de secours,
et tout ce qui est administration du...
C'est le dernier recours avant le botin.
Sur le premier. Donc, c'est le secours du secours. Donc, je ne peux pas faire ce genre d'annonce. Mais, Bon, bah, écoute, tout ce qui est, fin de programme qu'on avait prévu, on mettra ça pour un prochain épisode. On va quand même conclure sur nos films.
Je vais vous laisser. Je suis désolé, je vous laisse finir. Ouais. Je vais vous laisser. Je dois vraiment partir. Non, en tout cas, Aristote, ça aurait été un plaisir de te rencontrer.
Merci pour l'invitation.
s'il y a moyen de refaire un épisode une fois, enfin comme ça, tu vois, genre c'était cool, tu vois, sans forcément reparler forcément, mais c'était cool de t'avoir, t'étais sympathique.
Ah oui, très très gentil. Bon, juste une chose, désolé, normalement les autres à la base devaient être avec moi, mais là c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je suis sûr que ils vont un peu regretter de ne pas être venus.
Bah, quand ils écouteront l'épisode, ça leur donneront envie.
Ah oui, j'espère.
Et sinon, nous on peut venir passer la frontière aussi. Hein.
Ah, bah, voilà. Plaisir.
Bon, en tout cas, je vous dis au revoir. Et puis, bah, bonne soirée. Oui. Puis, bonne soirée, Deka. Bonne soirée, John. Même si John, ça n'a pas été au top ce soir au niveau des blagues. Hein, je veux dire.
Bah, attends, c'est toi qui pars en plein milieu. Hein. Tu sais pas ce que je réservais d'autre. Hein.
Ah, oui. Tu sais, il va nous faire un feu d'artifice pour la fin. Faudrait qu'on fasse les podcasts.
Bon, en tout cas, bonne soirée à vous et bon courage.
Ouais,
bon, allez, bisous, bisous.
On a bientôt fini, on va juste enchaîner sur les recommandations de films. Donc Morgan, bah il y en aura pas. Hein. Qui veut commencer? Est-ce que John ou Harry veut commencer sur une recommandation de film?
Comme vous voulez. Je peux y aller.
Vas-y.
Harry,
comme
ça,
vas-y. Bah juste un film que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est Memories of Murder. Donc c'est un des films de Bong Joon-ho, donc réalisateur coréen, qui dernièrement vient de passer au Festival de Cannes pour un autre film qu'il vient de faire qui s'appelle Okja, je crois, et qui va bientôt être sur Netflix. Donc là, c'est un peu, en gros, le film qui l'a fait exploser d'un point de vue international. Donc c'est un thriller qui se passe... Alors je crois que c'est plus ou moins dans les années 80, à l'époque où la partie du monde dans laquelle il se trouvait sortait tout juste d'une dictature et en fait il croyait pas trop au tueur en série et du coup là il tombe un peu sur le premier tueur en série en tout cas depuis la sortie de la dictature et du coup ils sont un peu bloqués et en fait c'est comment dire un enquêteur qui vient un petit peu de la capitale qui va venir les aider sur l'enquête et c'est vraiment réalisé de bon c'est sûr que c'est un peu particulier parce que du point de vue de la vie de tous les jours c'est assez dépaysant parce que d'une part on est en Corée puis c'est à une époque un peu particulière et en plus on est dans une histoire qui est un thriller, mais je trouve que les Coréens ont ce talent, et surtout Bong Joon-ho, c'est de mêler un peu tous les genres. Donc, il y a l'enquête avec cet homme qui tue des femmes, qui les viole et qui les tue. Mais en même temps, il va y avoir un petit peu d'humour avec les enquêteurs et tout ça. C'est quelque chose qu'il aime bien. Et un peu comme les films de Bollywood vont dire un peu tout mixé, tu vas voir. Tu peux avoir des thrillers avec forcément des scènes musicales, mais des trucs d'humour, des comédies romantiques. Mais là aussi, il le mixe vraiment bien, mais bizarrement, ça fait sens, quoi. Alors qu'à la base, tu viens pour un truc qui va te faire un petit peu...
Ouais, la mayonnaise, elle prend quand même, malgré le fait que ça décale sur de l'humour ou quoi, tu restes dedans.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Tu viens pour un thriller, mais t'as aussi un peu d'humour et des trucs comme ça, et ça fonctionne très très bien. J'en dis pas plus, parce que moi j'ai commencé à regarder le film sans rien connaître de plus.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça très très bien. Maintenant, encore une fois, c'est particulier, quoi. C'est pas du cinéma hollywoodien, mais...
C'est un film de genre.
Ouais
ben vraiment moi, je pense que le terme film de genre,
ça lui colle
plutôt bien, parce qu'en fait, c'est même... Ça va même jusqu'à mixer plusieurs types de trucs, donc c'est, il a vraiment son genre à lui, tu vois. C'est du cinéma de genre, mais qui ressemble à aucun autre film du cinéma de genre, quoi.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films coréens, comme je pense tous les excellents films coréens, comme qui sont plus dans le thématique horreur frisson, comme The Ring, tout ça. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'ils soient réadaptés à la sauce américaine, parce que, déjà, les remakes sont moins bons parce que il n'y a pas ce côté dépaysement comme tu dis un petit peu. Et c'est ça qui va marcher dans le film aussi parce que tu es dans une ambiance autre que celle que tu vois dans ton quotidien.
Oui, et par exemple, pour les films d'horreur, ça marche.
Dans la mise en scène du film. Et ouais. Tout, quoi.
Mais bon, pour les films d'horreur, justement, ça te met dans une situation d'inconfort, parce que déjà, c'est une situ... enfin, c'est un endroit que tu connais pas, et tout ça, du coup, ça fonctionne bien. Et, bon, je vais encore reparler de Doctor Who, mais je pense qu'il y a de ça aussi de Doctor Who, c'est que t'es toujours dans la surprise, parce que tu tombes toujours sur des trucs, c'est-à-dire que, quelle que soit la partie du monde d'où tu viens, Doctor Who, tu vas quand même être dépaysé, parce qu'il faut quand même partir dans des trucs totalement fous. Donc, il y a aussi un peu de ça dans Doctor Who.
Ouais. Bah, Doctor Who, c'est quand même la seule série où tu veux te retrouver dans un vaisseau spatial avec poursuivi par des dinosaures.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Et avec Cléopâtre.
Ou c'était Cléopâtre, exactement.
C'était Nefertiti ou Cléopâtre,
oui,
je ne sais plus.
Ouais, je sais plus, ouais.
Bon, ah, une personne, bon.
Et, ouais, voilà. Mais oui, je connaissais pas ce film, mais en tout cas, je sais que le cinéma coréen, moi, quand je tombe sur ces films-là, j'aime bien regarder, quoi. Je vais pas y aller systématiquement. Mais dès que j'en vois un qui passe à la télé ou que j'ai l'occasion d'en voir un, en général, t'es rarement déçu.
Ouais, ben les
même
films asiatiques en général. Même dans les films
dramatiques, que j'aime pas vraiment ce genre de film habituellement, mm-hmm. Le fait que ce soit dans une ambiance autre que ton cadre de film habituel, tu vas plus facilement.
Ben ça apporte autre chose, quoi, vraiment. Ouais. Donc.
Il y en avait un que j'avais vu avec deux sœurs et c'est un peu comme tu dis, c'était un peu mélange des genres entre le drame et l'horreur.
Ouais.
Les deux sœurs jumelles, je sais plus comment il s'appelle ce film. Il y avait des scènes flippantes où justement il y avait les cheveux qui commençaient à pousser et qui essayaient d'attraper les trucs. Mais super bien fait, quoi. Et je suis sûr que t'aurais vu ça dans un film américain, t'aurais dit, ouais, bon.
Ouais, ouais. Bah oui.
Là, dans ce contexte-là, ça passe tout seul, quoi.
Dans l'horreur, ils jouent pas sur les mêmes trucs que nous, les asiatiques en général.
C'est beaucoup sur ce que tu ne vois pas.
Ouais. Et
c'est
même, par exemple, leurs fantômes, quand on les voit vraiment, ils sont très humains. Alors que dans le cinéma américain, tu vas, ils vont essayer de te faire des trucs qui vont te faire peur parce que faut faire un monstre et tout. Là-bas, c'est généralement genre, c'est une petite fille mais qui est maquillée en blanc. Mais
ouais,
c'est d'autant
voilà,
plus flippant,
des,
quoi.
C'est peut-être ça que tu veux dire, c'est des enfants aussi.
Ouais, les enfants dans les films d'horreur.
Voilà,
ouais.
Mais c'est ça aussi, c'est ça qui va te gêner plus parce que c'est des enfants.
Ouais.
Et je pense que c'est ça qui va plus t'accrocher parce que tu vas dire, c'est des enfants. Et souvent, ils sont toujours à peu près mis en scène, comme tu dis, de la même manière. Maquillage blanc, vêtements blancs, fond noir, pour vraiment jouer là-dessus. Et je pense que c'est ça qui fait... Et ça marche beaucoup avec le bruit aussi. Moi, je me souviens, j'avais mis ma barre de son une fois. Mais j'ai sursauté, alors que je sursaute jamais, parce qu'il y avait un bruit que j'avais entendu dans le truc. Je dis, mais c'est pas... D'habitude, je sursaute jamais dans un film comme ça, avec un bruit, et là... J'ai dit, ouais, j'ai accroché tout de suite, quoi. J'ai dit, là, vraiment, et comme tu dis, c'est pour ça que ça marche peut-être. Et regarde, Les Affranchis, c'est un film coréen ou hongkongais, hein.
C'était
celui qui était réalisé par,
c'était les... Oui, non, c'était Les Infiltrés.
Les Infiltrés, voilà.
Ouais, c'était, Internal ou Infernal Affairs, qui était, qui était en tout cas asiatique, maintenant le pays exactement je ne sais plus, mais oui c'est non, c'est un film hongkongais je crois.
Ouais et d'ailleurs tu vas prendre un contre-exemple, quand c'est un réalisateur asiatique qui va aux États-Unis, ça marche pas.
Non mais ouais, mais ouais,
oh, il y a des petites exceptions.
Ouais, ben Bong Joon-ho quand il a fait mais c'est lui qui a fait Snowpiercer je crois, ça fonctionne assez bien. Mais c'est vrai que tu regardes John Woo, ce qu'il a fait ce qu'il a fait aux États-Unis, c'était un peu nul à chier. Ouais. Mais même les films de Jackie Chan, ceux qui sont passés aux États-Unis, c'était pas fou, quoi.
Ouais, mais
bah, c'est pas du tout le même genre, en fait.
Bah ouais.
Non, mais Jackie Chan, c'est une légende, ce gars-là.
Tu regardes La Boxe de l'Homme Sous, je me rappelle plus comment il s'appelle ce livre.
Oui, c'est enfin en anglais, c'était
Master.
Ouais, c'était Drunk Master, un truc comme ça.
Ouais, je crois que c'est ça. Je les ai en DVD, les tout premiers. C'est vrai que bon, on voit le côté.
Mais ouais, c'était, enfin, ça fonctionne bien parce que c'est vraiment typiquement du cinéma. Là, c'est hongkongais si j'ai pas de bêtises. Et quand t'essaies de le transposer dans une autre part du monde, ça fonctionne tout de suite moins bien, quoi.
Tu prends après ce qu'a fait. Amélie Poulain, sa carte à l'étranger, pourquoi? Parce que c'était la carte postale que les gens ils voulaient voir Paris.
Oui, c'est ça, mais c'est un peu une vision fantasmée de Paris,
voilà,
quoi. Du coup, les gens, ils viennent pour ça.
Les gens, ils voulaient voir à Paris.
Exactement.
Voilà. Et je pense que c'est un peu ce que tu veux voir dans les films asiatiques.
Et depuis, dès que Mel se balade dans le monde, on lui demande des oranges, des carottes.
Non, mais, et sincèrement, je travaillais avec un Américain, là, au boulot. C'est la première fois qu'il vient en Europe. Mmh. Et donc, j'ai un peu parlé, tu comptes visiter quoi pour le moment et tout ça. Mais lui, il imagine que Paris, c'est comme ça, quoi.
Ah ouais?
Bah, parce que dans les films, on nous montre que...
Ah, faut l'emmener à Paris.
Ah. Non, non, non. Non, ouais, alors, non.
Il va voir du pays.
Ouais, il va rien comprendre.
Il va faire Gare du Nord, Gare de Lyon, déjà. Ouais. Il va vite comprendre.
Ouais, tu sais, juste en faisant les chants...
Ah ouais, ouais.
Là, j'ai rien que sur les chants, déjà, il va déchanter.
Je la voyais venir, celle-là.
Mais de loin.
Ah, mais alors là, un raz-de-marée, celle-là. Ok. John, bah, qu'est-ce que t'as comme recommandation?
Alors, en recommandation, en film, allez, on va dire, Seul.
Ah.
On en parlait en test hier. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est? Bah déjà c'est de la SF, enfin SF fantasy inspiré de la BD. Ouais. Donc bon bah pour les auditeurs qui sont en France, ils ont forcément entendu parler. Ils en ont parlé partout, télé, radio, voilà. C'est des ados qui se réveillent tous, chacun. Ils sont tous dans un coin de Paris.
Ouais.
Hein, bien sûr, le Black, il est dans le fin fond du 93.
Bah, tiens.
Enfin, chacun a un coin. T'as le petit, t'as le comment on appelle ça? On va dire t'as le petit gamin de riche, etc. Enfin bref, il se réveille et il se retrouve. Voilà, il se retrouve seul dans Paris. Tous les enfants, enfin tout le monde, les adultes, etc. Mais comme évaporé, tu vois. Il y a de la vie. Il y a, je sais pas, les commerces qui sont laissés. Et c'est, il est sympa. J'attends la suite. Ils ont pas dit s'ils allaient tourner le deuxième ou pas, mais j'espère. Bah déjà parce que c'est de la SF française. Donc déjà rien que pour ça, il y en a pas beaucoup. Je crois même qu'il y en a pas.
Mais en production uniquement française.
Ouais,
mais c'est pas une production. Oui, avec la meuf avec ses cheveux bleus.
Ouais,
je ne sais plus le nom. Mais...
Bon, c'était pas un grand film. Hein,
mais enfin, déjà rien que pour ça, le fait que ça soit français. Et puis le pareil, les acteurs. Il y a comment il s'appelle? Il y a l'humoriste.
Stéphane Bach.
Ouais. Mais c'est un peu le perso principal du film, non?
En fait, ils sont tous.
Ah ok.
Enfin, dans la BD, ils sont tous principaux, on va dire.
D'accord.
Ils ont tous... mais là, pour le premier épisode, c'est lui et la fille dont je me rappelle plus le prénom. Sophia... Je me rappelle plus le nom de cette actrice-là. Elle a joué dans Le Retour des Trois Frères.
D'accord.
Les Trois Frères, Le Retour.
Ça, je saurais pas t'aider.
Malheureusement. C'est en train justement de regarder un peu la bande-annonce et tout. Ça a l'air d'être même un peu sombre hein, comme ambiance.
Ah oui, clairement. C'est ça surtout. En fait, sachant qu'à la base c'est une BD pour ados.
Ouais.
Et puis le trait est. Enfin, c'est par exemple par rapport à la BD que j'ai présentée tout à l'heure là, c'est diamétralement opposé quoi. Autant c'est un peu masqué, c'est très les dessins, c'est très adulte. Voilà, là ça reste pas enfantin, mais je ne saurais pas des. Enfin, le trait du dessin est assez.
Voilà. Ouais, c'est très ligne claire franco-belge quoi.
Et c'est quoi
voilà,
cette espèce de nuage
clairement.
Que tu vois là C'est quoi ce nuage en fait? C'est à cause de ça?
Ah bah ça fait partie de l'intrigue du film en fait.
On va pas tout révéler.
D'accord. Bon d'accord.
Voilà, sachant que la BD originale, elle est encore en cours, mais ils ont dit que ça allait durer 20 tomes, je crois, ou 25, je sais plus.
D'accord.
Et les premiers, donc le film là, il se base sur le premier tome, le deuxième.
D'accord. Ah oui, donc il y a encore une marche, quoi. pour faire les 20 films, les 20 heures.
Comme ils ont adapté.
Ouais, ils ont plongé librement, ils ont piqué dans les volumes librement pour faire un tout dans un film, quoi.
Voilà. Et en fait, bah, à la base, je connaissais pas la BD. Enfin, je l'avais déjà vue parce que elle se vend super, c'est une BD qui se vend bien. Mmh. Et, en fait, d'où le dessin assez clair. Je me disais, ça faisait trop enfant, donc je me voyais pas le prendre, en fait, le, ouais. Même, dans une bibliothèque, c'est pas un livre que j'aurais pris. Ouais. Du fait, déjà, qu'il soit classé côté ado. Mais, question, déjà, rien que la première page de l'album et tout, enfin, voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de le lire. Donc, ouais. Je pense que je les lirai. Mais les acteurs, ils sont super bien dedans. Pour des gosses, voilà, il y en a 14-15 ans, je crois. Je crois que les deux plus vieux, c'est Stéphane Bach et Sophia, je me rappelle plus de son prénom.
Ah, moi, je suis plus sur la fiche, donc je pourrais pas me dire.
Mais c'est les deux plus vieux. Mais le jeu est... excellent quand on les voit, quoi. Et puis c'est le côté un petit peu, tu sais, oh là là, on se retrouve un peu comme dans Seul Tout, le film avec Eric Ramsey, où ils se retrouvent tout seuls et puis du coup
c'était chouette Seul Tout,
c'est voilà, malgré que ça soit un truc on va dire assez thriller et où l'ambiance elle est pesante, le début bizarrement il est très, enfin il y a quand même, ils réussissent à faire le, comment dire, l'harmonie avec le côté terrifiant, on va dire, le côté pesant de la trame narrative, et en même temps il y a quand même des petites blagues, voilà, à un moment ils sont dans un hôtel, je crois, je sais plus, et du coup ils commencent à faire des bêtises, il y en a un qui traîne des vélos, voilà, c'est, ils réussissent quand même à faire ce genre de conneries que tu te, bon, bah si je me retrouve, qu'est-ce que je ferais, quoi. Le côté enfantin de ça, ah bah j'irai direct là, tout ce qu'on m'interdit de faire, et c'est, voilà, il y a le premier film, bon, c'est pas un film qui va nous mettre joyeux quand même. Voilà, j'avais été le voir au cinéma. On y avait été avec ma femme et on est sorti. Je peux te dire qu'on s'est dépêché de rentrer à la maison pour pouvoir mettre un truc avec la petite, puis pour se, tu vois, parce que c'est quand même assez pesant l'atmosphère. Et la fin, donc sans trop spoiler, enfin la fin du premier film, elle te demande, en fait. Si tu n'as pas lu les livres, tu te dis, mais attends, comment ça se fait que... Ah ouais, ouais.
D'accord.
Seul. S-E-U-L, avec un S.
D'accord, bah écoute, ça peut une bonne recommandation. Bah, je vais finir avec ma recommandation qui a été... j'y suis allé sans prétention, et finalement, je me suis dit, paf, un peu comme toi, c'est le meilleur film que j'ai vu en 2017. C'est la suite des Gardiens de la Galaxie. Vraiment, un Marvel qui t'en met plein la vue. C'est un peu le Star Wars déluré que tu rêverais d'avoir, quoi. Bourré de clins d'œil geek aux années 80. À plein de séries, à plein de personnages que tu vois, tu te dis, waouh, c'est bourré de clins d'œil. Et l'histoire, bon, elle est pas mal. Mais bon, tu t'attaches vraiment aux personnages... et vraiment, je suis éclaté du début à la fin. Après, j'ai vu le film en plus sur une projection en laser ultra qui est proposée par les cinémas Kinépolis. L'image elle est super belle. Et bon, il y a un moment donné, c'est bourré de clin d'œil et il y a un gros caméo d'un acteur. Bon, il y a Kurt Russell, ça on le sait, on le voit dans la bande-annonce, mais il y en a un autre qui apparaît et qui dit, ah ouais, ça fait super plaisir de le voir. Et puis il y a un clin d'œil, il y a plein de séries dedans qui sont monstrueuses. Bon, après je peux le spoiler juste un truc, c'est que on voit déjà Howard le Canard, donc rien que Howard le Canard déjà on l'a pas vu quasiment depuis 86, mis à part dans le premier Gardien de la Galaxie. Et bon, en fait c'est le personnage fétiche du réalisateur qui s'appelle James Gunn, donc il l'a mis dans la scène cachée du premier, bah il le remet au début du deuxième. Donc, bon, toujours avec ça, elle est en train de picoler, hein. Je crois que de toute façon, ils veulent faire que picoler dans tous les films des Gardiens de la Galaxie. Mais bon, déjà, rien que ça au début du film, et puis c'est bourré d'années, de bourré de caméos, de clins d'œil. Voilà, quoi, c'est vraiment... l'histoire est vraiment sympa, donc... Et puis c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages un peu délurés que je retrouve un peu certains personnages de tu peux faire même le comparatif avec Star Wars sur certains personnages parce que bon Star-Lord il fait vraiment penser à Han Solo, Gamora c'est un peu Leia, tu vois, Groot et
Chewbacca. Et
Groot, bah, Chewbacca, ouais, et... un peu, voilà, et on va dire que Rocket, c'est un peu c'est 6PO, donc tu vois, c'est un peu le parallèle, mais eux comparé à Star Wars où ils sont un petit peu, bah, sont un peu cadrés, eux ils peuvent se permettre de sortir des grosses blagues dégueulasses et en même temps délirer sur plein de trucs, donc voilà quoi, il y a des moments c'est vraiment marrant et j'ai vraiment bien aimé le film et puis une bande son vraiment voilà quoi, il y a une musique, rien que le générique, tu vois, maintenant je rentends la chanson du générique du film, je revois systématiquement ce truc là, je revois la scène du début quoi. Donc rien que pour ça tu te dis ça y est, c'est déjà rendu dans les films mythiques et un film que j'ai envie de voir avec une certaine impatience, c'est Valérian de Luc Besson.
Ah oui.
Parce que il peut pas faire pire que Lucie, donc il peut que remonter la France. Voilà.
Ah, et Lucie, voilà.
Un petit coup comme ça au passage, il va pas pire que Lucie.
Voilà.
Mais bon, hein, il y a eu pire quand même, mais bon, ah, je Lucie, ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, donc
Lucie, c'est pour moi, c'est un étron cinématographique, hein, c'est
regardable, oui, bon.
Quoi, c'est... Il y a Transformers, hein, aussi, dans le même genre. Tu vois, je vais tous les Transformers réunis avec Lucie. Bon, donc pour te donner une idée, voilà.
Et Gothica, quoi. Non? Avec Alberi.
Bah, j'ai pas regardé un si mauvais film que ça, me souvenir que ça, mais oh, j'étais même, forcément c'était... dans un bon état pour regarder. Mais je crois qu'il avait dû avoir quelques apéroles avant le film, donc.
Non, mais je te rassure, hein, je l'ai regardé à jeun et.
Ah, ouais, mais c'est pour ça alors.
Ouais, non, c'est compliqué, hein, Gothica, c'est compliqué.
Gothica, c'est le seul film qui réussit à te faire douter. Si tu t'es endormi pendant le film. Enfin, ouais. En tout cas, sur moi, ça a eu cet effet-là, quoi. J'ai dû, je me suis forcé à le regarder au moins 3 fois parce que j'avais l'impression de m'endormir. Ah ouais, comme si j'avais fermé les yeux.
Ah ouais.
Bah, en fait, j'ai pas aimé la fin, mais comme la façon du film, je me suis dit bon. J'ai dû m'endormir, je m'en suis pas rendu compte. J'ai dû me déconnecter, quoi, parce que je comprends rien. Je l'ai remis une deuxième fois. Puis une deuxième fois, j'étais un peu fatigué. Et puis bon, voilà, comme je savais un peu ce qui allait se passer et tout, j'étais moins vigilant.
Ouais.
Donc je me suis dit bon, et refin. Je dis attends, c'est pas possible. J'ai dû me rendormir. Ouais. Du coup, je l'ai regardé quelques temps après, en plein après-midi. Je me suis pas endormi. Je jouais avec mes mains pour être sûr de pas.
Ouais.
J'ai vu la fin, j'ai dit ah bah non, en fait c'est le film qui est comme ça.
C'est le film qui pourrit en fait.
C'est le film quoi, je sais pas.
Ah ouais, il a fallu que au bout de 3 fois tu te rendes plus compte que le film il était pourri.
Ah ouais, bah la deuxième, comme j'étais fatigué, tu vois, je me suis dit j'ai dû m'endormir, c'est pas possible, j'ai dû...
Il a laissé sa chance au produit quoi.
Voilà, me suis dit, et puis bon, et puis Alberi quoi.
Ouais, bah moi lui aussi...
Puis j'ai dit bon, tant pis.
Bah tu vois, Lucie, il y a Scarlett Johansson, mais Lucie, une fois j'ai compris quoi. J'ai dit bon c'est bon hein.
Ah moi aussi hein, Lucie, une fois j'ai compris.
Lucie, c'est le seul film où tu vois Morgan Freeman se faire chier, tu vois. Pourtant Morgan Freeman c'est un des acteurs les plus classes du monde. Tu te dis non mais là je crois que même lui il sait pas ce qu'il fait dans le film, tu vois. Il a même pas compris ce qu'il devait faire dans le film, tu vois. Il parle, il fait son discours. Oui, il va discuter avec Scarlett Johansson. Il sait pas ce qu'il lui raconte. Il a pris son chèque et parti.
Ça. Voilà. Ça serait clair, quoi.
Ah, c'est irregardable, ce film. Bon. Donc, je peux me dire, voilà. Il est parti très bas. Il peut que remonter avec Valérian. Et de toute façon, je crois que si Valérian marche pas, EuropaCorp risque d'avoir des gros, gros problèmes. Donc, voilà.
À mon avis, ça fonctionnera bien. Du point de vue des ventes, enfin, des entrées.
Puis à mon avis, des films comme ça, c'est les droits de, c'est la distribution qui fait que ça doit marcher aussi, hein, de toute façon.
Ouais.
Ouais, attends, c'est 190 millions sur la table, ils peuvent pas se dire, ok, il faut un minimum, bon. Ils savent à combien d'entrées, mais il ne faut pas avoir une grosse fourchette d'entrées pour que ce soit rentable.
Mmh.
Ok, ok. Bon, bah, je pense que sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter. Donc, c'était fixé 2 heures, on est quand même à plus de 2h49. Je pense que là, on a bien débordé.
Plus c'est long, plus c'est bon.
Ouais, mais des fois, ça peut déborder. Donc, on va juste...
Mais c'est un hors-série.
C'est un hors-série, mais on va revenir, on ne sait pas quand, on va en discuter avec Morgan, Fabrice et John prochainement, au niveau de l'apéro des papas manchots. Je pense qu'on continuera pendant l'été, donc il devrait y avoir un épisode en juillet et en août. On ne sait pas encore trop, peut-être un épisode pour les 2 mois. Ça dépendra un peu des plannings de tout à chacun. On en discutera prochainement, parce que c'est vrai que là, déjà, cet épisode de juin a été un peu long à se mettre en place pour caler justement notre invité du jour et tout le monde.
Ouais, donc, ça c'est toujours un peu complexe.
C'est toujours un peu complexe, hein. Les agendas sont pas faciles à caler. Et donc, en tout cas, un grand merci à toi, Harry, d'être venu.
Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être venu.
J'ai réalisé un de mes rêves de parler de Dr. Who de manière complète dans mes podcasts. Donc voilà, c'est un des trucs en plus que j'ai fait dans ma carrière podcastique. Donc rien que pour ça, je te remercie. John, encore
plaisir.
Une fois, de toute façon, je peux que te remercier. T'es le pilier du podcast, hein. Donc sans toi, l'apéro des pompons manchots n'existe pas. Hein, donc voilà. Mais bon, après, tu prendras ton chèque, hein, comme d'habitude.
Oui, oui. Et puis là, j'en ai besoin, là. Faut que je me rachète un clavier.
Ouais. Ouais, mais c'est surtout toi qui dois m'en donner un. Voilà, parce que John me paye les compliments.
Ah, d'accord.
Voilà, ouais. Donc ça, c'est ce que tu ne savais pas. Donc, tu sauras pour la prochaine fois. Donc déjà, toi, dans la 4-5 d'avant, je t'en mets une belle note bien salée. Et sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on peut... Donc, tu disais, on peut te retrouver sur Facebook, la page de la cabine bleue, c'est ça?
Oui, la cabine bleue, vous regardez, vous tapez la cabine bleue et dès que vous voyez un avatar qui est un truc bleu, c'est que c'est probablement nous. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter parce que je poste dès que on publie une nouvelle émission. Donc, vous mettez @Harry-antidote. Comme un antidote, et vous tomberez sur moi, et donc dès que j'ai des news sur les épisodes qui sortent, je le publie directement sur Twitter.
D'accord. T'as une date approximative pour le prochain épisode ou...
Je pense que d'ici 2 semaines, il devrait sortir.
D'accord. Bon, donc ça veut dire que d'ici le temps que nous on le publie, il sera disponible. Bon, bah, c'est bien. On sera calé. John, on se retrouve toujours sur Diaspora.
Oui, plus sur Twitter.
Oui.
Sachant que bientôt c'est les vacances et que je pars à l'étranger et que la data. Plus en plus si je dois t'envoyer les chèques, donc ça sera plus du Twitter, tu vois.
J'ai du wifi à l'étranger, hein. Le wifi s'arrête pas qu'en France, hein, tu sais.
Mais tu sais que je suis
même en Belgique, ils ont du wifi, tu sais.
Oui, mais assez paranoïaque, tu vois. Je me connecte pas partout, tu vois.
Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça peut faire un très bon sujet d'un apéro des papas manchots, d'ailleurs.
Tu sais, c'est comme ma femme. Je n'en ai qu'une. Je me connecte qu'à ma maison.
C'est tellement beau.
Bon, vous me retrouvez sur Twitter, Don Clivert, sur les poètes, Mastodon, mais bon, vu que c'est que je me suis trompé de serveur, ça va être compliqué de me retrouver, mais vous pouvez essayer, sur Diaspora, et prochainement sur le site, quand mes problèmes de machine seront réglés, et on espère d'ici là pouvoir finalement... héberger définitivement nos épisodes de manière pérenne et sereine. Et sur ce, je vous dis à bientôt et ciao.
Salut.
Ciao.